Alors on va faire Bezrat Hashem, on va commencer avec un peu de retard, désolé, notre troisième cours sur le neuvième chapitre, troisième et dernier cours, sur Rabotai, sur le neuvième chapitre, pardon, du Tanya. Alors dans ce chapitre, on va faire un petit résumé, le temps que vous dégustez un peu ce qu'il y a, ce que Marcel nous a bien préparé. Dans ce neuvième chapitre, on a parlé, on a expliqué longuement. Rabotai, on peut commencer ou pas?
Allez, on commence.
C'est bon? Alors, dans ce 138, dans ce 9e chapitre, on a expliqué, on fait un petit résumé aussi, voilà. Il reste des livres encore, hein, là-bas. On a expliqué comment, dans le cœur, il y avait, en fait, chez l'homme, pardon, il y avait deux sièges. Il y avait le siège qui s'appelle le cœur et le siège de la raison. Ces deux sièges qui sont, si on peut dire, indépendants, d'accord? Deux centres de contrôle. Donc, il y a le siège du cœur. C'est pas grave, laissez. Il y a le siège du cœur qui contrôle les pulsions. Il y a le siège justement du cerveau qui contrôle les pensées, les idées. On a expliqué que spirituellement, comme c'est expliqué dans le Zohar, en fait, le cerveau correspond à l'âme divine, alors que le cœur correspond à l'âme animale. Pourquoi? Quel rapport entre les deux? On avait expliqué que c'est quoi le rôle du cœur? Le rôle du cœur, c'est de pomper le sang pour le remplir d'oxygène et le refaire passer. Donc, on a expliqué que dans le cœur, justement, représente les pulsions puisque le cœur, c'est le sang. Et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la chaleur. Donc, c'est la pulsion, la recherche des plaisirs. Parce que c'est ça, le sang. Le sang, c'est chaud, c'est la recherche des plaisirs. Alors que, dans l'autre côté, on a expliqué que le cerveau, au contraire, c'est beaucoup plus réfléchi. Et ça, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, qui veut constamment faire les choses de manière posée, réfléchie, calculée. L'âme animale, qui veut constamment faire ce qu'il te plaît, d'accord? Qui veut que je fasse ce que je veux et non pas ce qui est bien pour moi. Et donc en vérité, sans même rentrer dans l'âme divine et l'âme animale, c'est toujours un combat à l'intérieur de l'homme. Est-ce que je fais ce qu'il me plaît ou est-ce que je fais ce qui est bien pour moi? Et malheureusement, ce qui est bien pour moi, c'est pas tout le temps ce qui me plaît. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, quelle est la différence entre un rabbin et un commercial dans une grande boutique? C'est que le commercial, il te vend ce que tu n'as pas besoin mais tu as envie. Alors que le rabbin, il te vend ce que tu n'as pas envie, mais tu as besoin. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est ça la différence entre l'âme divine et l'âme animale. D'accord? Donc un, il te dit ce que tu veux, et l'autre, il te dit ce que tu dois avoir. Et donc, c'est un combat constant qui s'arrête jamais entre l'âme divine et l'âme animale. Ça, c'était le premier cours qu'on a fait. Résumé. Ensuite, deuxième cours qu'on a fait, on a expliqué, on est en haut de la page 138. Vei anikret bekatouf. Ensuite, on a expliqué, dans le deuxième cours qu'on a fait, qu'en fait, étant donné qu'on a compris qu'il y avait deux sièges, le siège du cœur et le siège de l'esprit, alors ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est deux quartiers généraux. Et qu'en vérité, comme il y a deux quartiers généraux, il y a deux entités qui sont à l'intérieur de nous. C'est pas une entité. On a l'habitude de traduire Yetzer Hara par le penchant du bien, le penchant du mal. En vérité, il a expliqué que c'est une mauvaise traduction. Yetzer, c'est pas seulement un penchant, c'est pas seulement une pulsion, c'est carrément un moteur. On a deux moteurs à l'intérieur. Un moteur qui est le moteur du Yetzer Hara, et un moteur qui est le moteur du Yetzer Hatov. Et c'est quoi la guerre entre ces deux moteurs, entre donc ces deux rois, comme il les a appelés, vous rappelez la différence entre le roi et le grand roi et le petit sage? C'est quoi la guerre constante? La guerre constante entre les deux, c'est qui va prendre le contrôle du corps? Qui va prendre le contrôle du corps? L'âme divine, elle dit, moi je vais prendre à 100% le contrôle du corps, je veux que toutes les pensées soient cachères, toutes les paroles soient cachères, le bonhomme à peine il bouge son pied, pac, c'est pour aller faire une mitzvah. On a commencé à expliquer comment l'âme divine s'imagine le juif. Bon, voilà, le bonhomme, il se lève tout de suite, modan, il est fané, hop, il bouge, tac, merci, on avance, mitzvot. Partout, il va mitzvot. Voilà comment l'âme divine s'imagine un juge. D'un autre côté, l'âme animale s'imagine, attends, doucement, on va kiffer d'abord. Et on court comme ça. Et dès qu'il y a quelqu'un qui m'empêche de kiffer, ben, dis-moi, comment il m'empêche de kiffer? Comment c'est possible? Hop, vas-y, on rentre dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme animale, c'est constamment l'ego, qu'est-ce que moi je vais en tirer, alors que l'âme divine, c'est qu'est-ce que je vais donner à Kadosh Baruch Hu. Alors on a commencé à expliquer, la semaine dernière, on n'a fait que commencer à expliquer, la manière comment l'âme divine s'imaginait un juif religieux, qui est en vérité impossible. Le topo qu'on va terminer de définir aujourd'hui est impossible. Parce que la manière comment l'âme divine s'imagine le juif idéal, c'est impossible. Et on va expliquer que si c'est possible en fait, mais pour une catégorie de tzadik qu'on appelle le tzadik parfait, qu'on verra dans le chapitre 10. Parce que même dans les tzadikim, il y a le tzadik imparfait et le tzadik parfait. Mais celui-là, hein, s'il y en a un par génération, c'est déjà pas mal. Un par génération. D'accord? Donc on les traite. Alors seulement pourquoi l'âme divine elle veut ça? Parce que chacun il vise le top, c'est comme ça. On vise le top et après bah, ça sortira comme ça sortira. L'âme animale elle vise son top et l'âme divine elle vise aussi son top. Alors c'est quoi le top que vise l'âme divine? On a commencé à expliquer la semaine dernière. L'âme divine s'imagine que d'abord, le cerveau, il devrait réfléchir uniquement à Dieu. Il ne devrait penser qu'à ça. L'âme divine s'imagine que la capacité d'aimer et la capacité de craindre, on devrait les utiliser que pour aimer Dieu et craindre Dieu. Parce que c'est les capacités qu'on a, la capacité d'aimer et la capacité de craindre. Je peux aimer une bêtise, je peux aimer Dieu. Je peux craindre Dieu, je peux craindre aussi d'une bêtise. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que s'imagine l'âme divine? Elle dit, toi, ton cerveau, tu devrais l'utiliser que pour Dieu. Ta capacité d'aimer, que pour Dieu. Ta capacité de craindre, que pour Dieu. D'accord? Et pas seulement ça, pas seulement ça. L'âme divine, comment elle s'imagine? Mais encore une fois, c'est impossible à faire. Mais voilà comment l'âme divine s'imagine. Après, on expliquera comment l'âme animale s'imagine. L'âme divine, elle s'imagine, elle te dit, ton cœur, il devrait être bouillant pour faire les mitzvot. Pas comme aujourd'hui qu'on doit se convaincre, on doit se tirer du lit, et on doit se dire, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. Tu me dis, mais quoi? Dieu, il t'a demandé. Dieu, il m'a donné la possibilité de faire une mitzvah, mais tu devrais courir pour la faire. Tu devrais dire merci qu'il t'a donné. Et pas seulement ça. Et c'est là, sur ça, on s'est arrêté la semaine dernière. On avait expliqué qu'il y avait la différence entre Ahava. D'accord, on avait expliqué qu'il y avait la différence entre Ahava. Donc, le... Bonsoir. C'est là-bas. Merci. Donc... Hein? Alors, on avait expliqué... Réunion. Faut pas se mêler, c'est les femmes, faut pas se mêler. Alors, pardon. Écoutez la voix de la sagesse. Alors. Donc, on avait expliqué la semaine dernière que quand on parle d'amour, et c'est ça qu'on s'était arrêté, il y avait deux catégories d'amour. Il y avait l'amour comme le feu et l'amour comme l'eau. Alors, j'avais donné un exemple, est-ce que je vous ai donné l'exemple la semaine dernière du juif rescapé de la Shoah qui a découvert qu'il avait un fils? Je vous l'ai raconté l'histoire? D'accord. Donc, en gros, l'histoire, c'était quoi? C'est que, voilà, comme on a raconté, c'est qu'il y avait une personne, justement, qui avait soif de rencontrer son fils, parce qu'il a appris très tard qu'il avait un fils, en fait, qu'il croyait mort dans la Shoah et qu'il était vivant. Très bien. Et il raconte dans son histoire, comme on avait raconté longuement la semaine dernière, dans un long livre qu'il a fait, comment, la première phase avant de rencontrer son fils, il avait soif comme le feu. Il avait une soif de rencontrer son fils. Il était impatient de rencontrer son fils. Et après, une fois qu'il a rencontré son fils, qu'est-ce qui s'est passé? Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-vous? Il a senti comme une sorte de calme, d'apaisement. Alors, dans les mots de la Kabbalah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Ahava ki esh, Ahava ki rish fe esh. Traduction, on va prendre des mots. Donc l'amour ki rish fe esh, comme des flammes de feu. L'amour comme des flammes de feu. Et après, il y a Ahava beta anugi, l'amour du plaisir. Je vais vous expliquer, et là, c'est très important ce qu'il va expliquer ici. Pourquoi en vérité, c'est très important ce qu'il va expliquer ici. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va comprendre comment ça se fait qu'à un moment, on fait tous teshuva, et après, à un moment, on s'arrête. Je vais expliquer pourquoi. Très simple. C'est vraiment une logique extraordinaire qu'il dit ici. Il dit, en général, quand on a la recherche des plaisirs dans ce monde-ci, on a aussi le feu. On cherche quelque chose comme le feu. Il n'y a pas de problème. Mais après, à un moment, on le trouve. Et quand on le trouve, il y a un apaisement. Donc cet apaisement fait que tu as envie de recommencer, parce que tu sais qu'à un moment, tu arrives à un kiff. Mais quand tu te lances dans la Torah, et que des fois, tu n'as jamais cet apaisement, tu n'as que du feu, la recherche, mais quelque part, tu ne trouves pas forcément, ou tu ne sens pas que tu as été apaisé. À un moment, le Tzahara, il te dit, mais arrête de chercher pour ne pas trouver. Moi, je vais te proposer des vrais kiffs, des kiffs que tu cherches et tu trouves. Des kiffs que tu cherches et après, tu peux faire le A après. Alors que celui qui fait teshuva, il n'aura pas forcément ce A. Il sera constamment en train de chercher, mais il n'aura pas forcément ce plaisir à un moment de dire, ça y est, j'ai trouvé. Et donc, c'est pour ça qu'il va expliquer ici que ça, c'est la différence fondamentale entre un tzaddik et nous. Pourquoi? Le tzaddik, il est arrivé à un tel niveau que pour lui, la recherche de Dieu, c'est un plaisir. Et donc, comme c'est un plaisir, du coup, quand le Yetzirah vient lui proposer des plaisirs, il dit, mais laisse-moi tranquille avec tes plaisirs, moi je kiffe avec Dieu. Je kiffe Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive à faire en sorte qu'il a du plaisir. Mais celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là et que pour lui, la recherche de divinité, les mitzvot, ne sont pas un plaisir, ne sont pas c'est pas un kiff, au point qu'il va dire, waouh, j'ai kiffé. Et ben, à ce moment-là, quand le Yetzirah, il vient, le Yetzirah, il écrase. Il dit, mais attends, moi, je te propose des vrais kiffs, moi, je te propose des kiffs concrets. Tu kiffes, voilà, tu dis, je recommence. Avec une formule que tu peux reproduire quand tu veux, où tu veux.
Mais c'est pas le but, en vérité, que c'est... nous, on kiffe.
J'ai compris. Là, on veut simplement expliquer comment l'âme divine s'imagine que devrait être le juif.
Ah oui.
Et comment, en vérité, l'âme divine, elle s'imagine qu'on commence avec un amour comme le feu, mais qu'après un moment, on doit arriver à une conclusion. Parce que ça, c'est la nature humaine. Vous savez, la nature humaine, on supporte pas travailler quand on appelle le fruit de son travail. Une personne, tu lui dis, par exemple, tu vas te lancer dans un business, pendant 2 ans, tu vas pas gagner 1 euro. Ça le dérange pas. Parce qu'il sait qu'on lui a appris que dans les affaires, quand on se lance dans une nouvelle affaire, d'accord, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps ça dure, hein, ça dépend des affaires. Mais s'il sait que dans le métier, c'est comme ça, que normalement, on va dire, pendant 2 ans, on gagne rien. Maximum 3 ans. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bon, c'est pas grave. Je gagne pas, mais je vais finir par gagner. Et si le bonhomme, après, il travaille 10 ans et qu'il gagne pas un rond, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, attends, il y a un problème. Il arrête pas de, comme le feu, il cherche, il trouve pas. Il dit, mais attends, il y a un problème, je m'arrête. Et ça suffit. C'est la même chose. Quand une personne, il fait teshuva, il cherche. Et après un moment, il voit que bon, il a pas forcément trouvé ce qu'il cherchait et qu'il est encore dans une soif, ben, à un moment, le yitzhara, il le calme. Alors que le tzaddik, lui, il cherche, mais il a trouvé. Donc, comme il cherche, il a trouvé. Donc, du coup, le tzaddik, c'est très facile pour lui d'écraser son yitzhara. Il dit, mais laisse-moi tranquille avec ton kiff, j'ai un autre kiff. Voilà. Moi, je kiffe dans la Torah. D'accord? Ça, c'était l'introduction.
C'est un truc très grave, là. Et donc, il n'y a pas de kiff dans la Torah.
J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un kiff.
On le sent pas.
Non, j'ai pas dit ça. Quoi. Attention. Pas mal comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un kiff. Mais c'est un kiff comme la recherche du feu. C'est-à-dire, c'est un kiff de la recherche. Mais il n'y a pas le kiff de l'apaisement. Quand tu as trouvé quelque chose, d'accord? Le kiff après coup. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vais donner un exemple. Un exemple très simple. Imagine-toi quelqu'un qui a très soif, par exemple. Il a très très soif. Il va prendre un verre d'eau. Il va boire. Il boit 3 verres d'eau, 4 verres d'eau. Il descend la bouteille. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a terminé la bouteille? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a terminé la bouteille? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Est-ce qu'il a soif à ce moment-là?
Non.
Il n'a plus soif. Parce que, donc il a réussi à assouvir sa soif.
Oui.
Oui.
Par exemple, quand tu es dans la recherche de l'amour de Dieu, forcément, donc tu es amené à te poser plein de questions. Si Hachem, il t'envoie la réponse à ta question, là, tu as la paix. Et comme moi, je pense que c'est un kiff que tu peux avoir là-dedans.
Tu as raison, que c'est vrai que dans une phase de la teshuva. Pardon. C'est vrai que dans une phase de la teshuva, on peut. Elle est motie, hein? Alors, non, merci. J'ai déjà mangé. Plus de viande. Alors, donc c'est vrai que pour répondre à ta question, Michael, c'est vrai que dans une première phase de la teshuva, on peut effectivement sentir qu'on trouve ce qu'on cherche, mais après un moment, on se rend compte que ça nous dépasse. On se rend compte que c'est plus fort que nous. Ça veut dire, c'est pas une méthode que, si tu veux, la différence qu'il y a entre la Torah pour nous et le reste et le plaisir de se mentir, c'est que le plaisir de se mentir, c'est quelque chose que tu peux reproduire. Je sais par exemple que voilà, il y a quelque chose que, il y a une formule que je peux reproduire. Que si je veux recommencer ça plus ça, j'arriverai à ça. Alors que dans la Torah, c'est très compliqué à reproduire. Donc voilà pourquoi le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort. Parce que lui, il te présente quelque chose qui est concret.
Concret, vas-y.
Mais Mendy, excuse-moi, je peux te couper, mais quand t'étudies, alors tu cherches, tu comprends pas, t'étudies ta Gemara, même si ça dépasse, etc., au bout d'un moment, t'arrives à ton raisonnement, t'as compris.
J'ai un plaisir. Très bien.
Et ben, si t'as suivi ce raisonnement-là, tu peux le refaire autant que tu veux.
Je compris. Mais ce que je t'expliquais ici, c'est par rapport à la recherche. J'ai compris ta question. Là, tu parles par rapport au plaisir de l'étude. Moi, je parle pas de l'étude. J'ai compris ta question. Là, tu parles par rapport à la recherche de l'étude. Dans l'étude. Moi, je te parle de manière générale la recherche de l'amour de Dieu. Tu sais, le Baal Teshuva, quand tu fais Teshuva, le bonhomme, il a le feu aux poudres. Il veut pas s'arrêter. Tu sens qu'il cherche. Et il s'arrête pas. Dès qu'il y a une mitzvah à prendre, à 4h du matin, il est là. D'accord? Et s'il en faut 2, il est là, il n'y a pas de problème. Il est là, il ne va pas dormir la nuit parce qu'il est angoissé de rater la mitzvah. Mais après un moment, quand il sent qu'il cherche, mais qu'il sent que ça le dépasse, ben après un moment, il se calme. C'est pour ça qu'il se calme. Alors que le tzaddik, pourquoi il se calme jamais? Parce que le tzaddik, il trouve ce qu'il cherche. Mais on n'est pas des tzaddikim. On n'est pas comme ça. Il y a une personne par génération qui est comme ça. Donc comme on n'est pas comme ça, voilà la raison pour laquelle le Yetzahara arrive à nous faire tomber. Parce qu'il dit, écoute, arrête de chercher, tu ne trouves pas.
J'arrive pas à comprendre ce qu'il trouve, le
tzaddik. Le tzaddik, il arrive à trouver le plaisir. Le plaisir de l'apaisement après coup. Alors que nous, on n'arrive jamais à être après coup. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que le tzaddik, il arrive à arriver au plaisir après l'effort. Alors que nous, on est constamment en effort. Et à un moment, t'en as marre.
Tu vois la vision de la réalisation.
Non, parce que c'est un niveau, c'est une perception que nous n'avons pas. On n'a pas ça. D'accord? Donc, c'est pas, on n'est pas comme ça. Nous, on n'arrive pas à ce niveau-là. On va rentrer dans les mots, on va développer. Donc, il dit maintenant, je suis. On va expliquer. Parce que ici, il peut encore agir, en haut, il peut plus agir.
Mais au niveau Sahar, c'est la même chose.
Oui, parce que le tzaddik, il n'a pas du tout le même. Il ne sera pas récompensé pour les mêmes raisons que nous. Puisque pour lui, c'est plus un effort. Pour lui, c'est plus compliqué. Pour lui, c'est rien. C'est normal.
Surtout que le salaire, il a déjà sur son site, parce qu'il est
Bien sûr. Le tzaddik, c'est un autre registre. C'est une autre course. Et c'est autre chose. Le tzaddik, lui, il doit faire du chiffre. Il doit avancer, il doit foncer. Nous, on est là, on est dans des.
Par quel mérite il arrive à être sans tzaddik?
Il n'y a pas de. C'est comme ça. C'est un srout qu'Akadosh Baruch Hu fait, qu'il y a une personne, deux personnes par génération comme ça. Des fois un peu plus.
Il est né pour ça, non?
Il est né pour ça. Il a une échama qui est conçue pour ça, comme on verra plus tard. Je dirais même plus que ça. Tu peux avoir deux personnes qui ont fait exactement le même parcours. Même yeshiva, même école, même éducation, même. Tu sais quoi? Deux frères les mêmes, jumeaux. Et au bout de 20 ans de travail, un il devient tzaddik, l'autre il reste au même endroit. Parce que un il est conçu, c'est un échama est conçu pour devenir tzaddik, l'autre c'est un échama n'est pas conçu pour devenir tzaddik. Et on peut rien faire.
Donc on n'est pas égaux.
Non, on est bien sûr qu'on n'est pas heureusement. Parce qu'il y a la différence. Ok. Alors on va continuer. On va rentrer un peu dans les mots maintenant. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est une introduction parce qu'on va voir dans les mots. Le tzaddik n'a pas le même but que nous. Regarde, je vais te donner un exemple. C'est comme par exemple, on prend aujourd'hui des voitures à hydrogène, d'accord ? On les met dans un désert, on leur fait une piste dans le désert. Il n'y a aucune condition qui les bloque, il n'y a rien, d'accord ? Et on dit, il faut que tu ailles le plus vite possible. Il va te monter à 1000 km/h. Combien ça monte ? Il va monter. Hein ? Il va monter à 1000 km/h. C'est-à-dire, son but, c'est quoi ? C'est de faire une pointe. Il doit tracer. Peu importe le challenge, il n'y a pas de challenge. Ton challenge, c'est juste de tracer. Maintenant, tu prends des voitures de course et tu vas les mettre dans les montagnes, avec la pluie, avec les, etc. Il faut le choix des pneus, n'est-ce pas, Serge ? Hein, voilà. Bon. D'accord ? Il faut le bon pilote, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il calcule est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir. Et il va se mettre en piste. Il va pas faire du chiffre, il va pas monter à 1000 km/h. D'accord ? Je sais même pas s'il va monter à 100 km/h, je sais même pas, hein, Serge va nous confirmer, c'est pas vraiment le connaisseur. Alors c'est quoi le challenge ? Bah, le challenge, c'est qu'il y aura des problèmes et qu'il faudra contourner les problèmes. C'est pas les mêmes courses. Un, il est là pour faire du chiffre, l'autre, il est là pour contourner les problèmes. C'est la même chose. Nous, on est là pour contourner les problèmes à chaque fois. On peut pas tracer. On devra freiner à chaque fois. Il y a des virages, on doit traîner, et après ça monte, après ça descend, et ça avance, etc. C'est une galère. Mais, au moins, notre challenge, c'est de contourner les problèmes. Le tzaddik, il doit faire du chiffre, il doit tracer le plus vite possible, une fusée. Donc c'est pas la même chose, on peut pas comparer ce qui est pas comparable.
Est-ce qu'il y a un but par individu, ou il y a un seul but pour tout le monde ?
Évidemment qu'il y a un but par individu. Chaque personne a son but, a sa mission.
Donc il n'y a pas de problème d'égalité. Alors.
C'est écrit comme ça. Une fois, hein, Rabbi Zusha, mais après, on va rentrer dans le texte. Parce qu'en vérité, toutes vos questions sont dans le texte. Une fois, il y avait un grand maître de la Chassidout qui s'appelait Rabbi Zusha d'Anipoli. Grand maître de la Chassidout. Et Rabbi Zusha d'Anipoli disait comme ça. Il disait, après 120 ans, lorsque je vais arriver en haut, on ne va pas me demander pourquoi tu n'étais pas le Baal Shem Tov. On va pas me demander pourquoi tu n'étais pas Avraham Avinu. On va me demander pourquoi tu n'étais pas Zusha.
C'est quoi Zusha ?
C'est son nom, son prénom. Ça veut dire, quand je vais monter, on va pas me demander pourquoi tu n'étais pas un tel, pourquoi pas... on va me demander pourquoi tu n'étais pas Mendy.
Finalement.
Chacun a sa mission.
Finalement, la plus grande bracha que Kadosh Baruch Hu peut te faire quand tu t'amènes ici, c'est qu'il te donne l'âme de quelqu'un de simple.
Je vais te dire plus que ça.
Regarde le
pas du tout, non, pas du tout. Bon, je vais te dire plus que ça. Chaque personne a une mission unique depuis la création du monde. La mission qu'il t'a donnée, elle n'a jamais été donnée à quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais.
Une mission.
Il a une mission à faire une mitzvah dans un certain endroit, d'aller récupérer une certaine étincelle. Chaque personne a une mission spécifique que pour lui. Que personne ne peut la faire à sa place. D'où la notion du gilgul, de la réincarnation, parce que Dieu a décidé, monsieur un tel, Neshama numéro un tel, doit aller chercher étincelle numéro un tel dans le monde. Personne pourra la chercher à sa place. Il l'a pas fait, et ben il remonte en haut, pac, on le refait descendre dans un autre corps. La même Neshama, il faut qu'il reparte chercher. Quoi ? Quand il l'a fait, ça y est, il reste en haut, au chaud. On se fait shalom. Ok ? Donc chacun a son but, chacun a sa mission. Chacun de nous a son but. Personne peut dire, moi mon but c'est d'être comme Rabbi un tel. Non, mon but c'est d'être moi. Et pour être moi, je prends des exemples sur d'autres, mais mon but c'est d'être moi par rapport aux capacités qu'Hachem m'a données. Ça c'est un sujet très 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 important.
C'est compliqué de t'étudier parce que j'ai pas besoin d'étudier ou de faire les mitzvot.
Bien sûr. Parce que je dois étudier à ma capacité, à mon niveau, pour comprendre ce qu'on attend de moi. Et plus j'avance, et mieux je comprends.
Je ne serai jamais quelle est l'étincelle que j'allais chercher.
Mais pas du tout. On avance toujours. Comme tout à l'heure, je donnais l'exemple pour Serge, l'exemple du pilote. Le pilote, il s'améliore d'année en année. Il est déjà pilote, ça fait 10 ans qu'il était déjà pilote.
Mais si mon but,
donne-nous des noms de...
Je vais donner un exemple.
Schumacher.
Si le but de Réhouven, c'est d'aller faire une bracha sur une pomme qui a poussé en Chine.
Entre autres, oui.
C'est son but, c'est ça, pour aller sauver l'étincelle qui est là-dedans. Il peut y arriver sans passer par les mitzvot et la Torah.
Oui, peut-être, peut-être, pas trop là. Chacun a sa mission. C'est pour ça qu'on doit essayer de chercher, de ratisser un maximum au large, pour être sûr de tomber sur la bonne pioche. Parce que ça prend du temps.
Mais c'est empêche. Il y a vraiment une mission dans la Torah. Ça peut être une mission pour sauver un être humain ou autre.
Par exemple, oui, bien sûr. Oui, c'est une mission, générale. D'accord. Mais ça, honnêtement, on va développer ça plus tard.
Donc ça peut être n'importe où dans le monde.
Alors, on est en haut de la page 138.
On va développer ça plus tard.
Oui, bien sûr. Ah oui. Tout ce que je vous dis, j'ai inventé, c'est l'antenne.
Vous êtes obligé de passer par là.
Oui, oui, bien sûr.
L'ignan, le but du
développement. Ben oui, il va poser la question, à quoi ça sert finalement ? C'est quoi notre but ? Tu me dis, le bonhomme, il cherche, à quoi ça sert ? Il cherche, il sait pour trouver un truc qu'il ne va même pas trouver.
Mais par contre, on n'est pas récompensé si on a atteint le but. C'est pas
le récompensé, tu montes dans
la réalité. Non, attendez.
Non, c'est deux choses différentes.
Écoute, regarde, c'est pas compliqué. Un enfant, d'accord ? un enfant qui est petit, qui ne sait pas encore marcher, quand il va faire un demi-pas, on va le récompenser. Pourquoi on va le récompenser? Enfin, on a envie de le récompenser. Pourquoi? Parce que par rapport à son niveau, c'est un effort. D'accord? Après, ce même enfant, quand il grandit, il commence à courir, tu lui dis arrête de courir. Alors, c'est le même enfant pourtant. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que chaque effort par rapport à son temps. Maintenant, son effort, c'est de se calmer, de s'asseoir étudier. C'est-à-dire, chaque niveau, chaque personne a son temps et chaque temps a une mission. C'est comme ça. Et la même personne, chaque année, chaque moment, il a une mission spécifique. On le voit dans la vie. Chaque personne, par rapport à l'âge qu'il a, par rapport à l'endroit où il est, par rapport à s'il est marié, s'il est jeune homme, s'il a des enfants, s'il est grand-père, etc. C'est des missions différentes qui changent. Une mission qui évolue. Ok? Comme un soldat, sa mission évolue sur le terrain. Elle évolue constamment. Oui. Non, mais ça, c'est une notion, on développera Bezrat Hashem plus tard. Dans les mots. Maintenant, on va apprendre dans les mots. On est à Ve'i anikret bekadum ahava veta'anugim. Vous avez dans les mots, en haut de la page 138.
Ah oui. 14.
Voilà. Je sais pas si dans le texte ici. Voilà, c'est le. Voilà, Yud Dalet, exactement.
C'est 4 et demi dans la fin.
Voilà. Donc, Ve'i anikret bekadum ahava veta'anugim. Comment l'âme divine s'imagine qu'on devrait être? L'âme divine s'imagine, comme on a expliqué, que le cerveau va penser qu'à Dieu. L'amour, on va aimer que Dieu. La crainte, on va craindre que Dieu. Tout que Dieu. D'accord? Et elle s'imagine aussi que non seulement on va aimer, mais d'abord on va aimer comme les flammes, mais on va aimer à tel point que on va trouver ce qu'on cherche. Ce qu'on appelle en hébreu, ahava betaranugim. Ahava, l'amour, betaranugim, du plaisir. Le kiff. Ça veut dire le kiff qu'il y a après que tu as trouvé ce que tu cherchais. Ce qui est très très rare. Dans le spirituel, c'est très très rare. C'est très très extrêmement rare. En général, dans le spirituel, on est constamment à la recherche. Et après, d'ailleurs, vous savez, je sais pas si vous avez déjà raconté, mais quand on étudie, enfin je le raconterai toujours, quand on étudie une page de Gemara, au début on l'a lu, on croit qu'on l'a compris. Après on l'a lu une deuxième fois, on comprend qu'on l'a pas vraiment compris. Une troisième fois, une quatrième fois, et honnêtement, à la fin qu'on a terminé, quand on a terminé, on a répété 5 fois, 10 fois, 15 fois la même page, bah finalement on arrive, même si on a bien compris, on a compris ce qu'on, je veux dire, on a compris les nuances, on a compris que finalement, pas qu'on a rien compris, mais on a compris que ça nous dépasse, c'est quelque chose de très fort. Donc ça veut dire que je peux pas avoir le kiff de, après je dis, ah, j'ai fini, j'ai kiffé, je la maîtrise, j'ai tout compris, bravo, il n'y a pas ça. Plus tu révises, plus tu comprends qu'il n'y a pas ça. Donc c'est compliqué. Tu comprends? Après, l'Itsahara, il vient, il te propose un kiff, il te dit, voilà, moi, je te propose un kiff, tac, 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 tac. Et après, d'accord, tu fais, ah, d'accord, bah, l'Itsahara, bien sûr qu'il a son kiff, il te parle plus, c'est comme ça. Mais l'âme divine, elle aimerait que, dans le spirituel, on trouve cet amour comme dans le mal, comme dans le matériel.
Veille. J'ai pas compris, c'est qu'il y a plusieurs façons de comprendre.
Oui, on va développer. Veille nous, ça veut dire. Sheyale, Veyavo, Veyagia. Hein, ça veut dire Yale Veyavo Veyagia. Yale Veyavo Veyagia. Comme dans le Yale Veyavo Veyagia, c'est comme on dit dans le Yale Veyavo qu'on fait justement en Rosh Chodesh. Ça veut dire Yale, que la personne va monter, Veyavo, il va arriver, Veyagia, il va obtenir. Ça veut dire que ça vient pas comme ça. Même le tzaddik ne croyait pas que ça arrive comme ça. Il monte, il cherche, pac! Et à un moment, tu sens que t'as trouvé. D'accord? C'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. C'est comme par exemple quelqu'un qui grimpe sur une montagne. Il grimpe, l'Everest, d'accord? Il grimpe, des semaines, des mois, il grimpe. Je sais pas combien de temps il faut pour grimper l'Everest. Il faut des mois. Et le temps que la respiration... Il faut longtemps. Il faut très
longtemps.
Il faut longtemps, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il n'est pas arrivé en haut, qu'est-ce qu'il a? Il a la soif d'arriver en haut. Il n'est pas calme. Une fois qu'il arrive en haut, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est en haut, là, sur le sommet, comme ça. D'accord? Ah, il kiffe. Il savoure le moment. Il savoure le kiff. Ça, c'est un moment qui est très difficile à avoir dans la Torah. Un moment dans lequel tu dis, je suis arrivé, je suis obtenu, je peux redescendre, j'ai atteint le sommet. Il n'y a pas de sommet. Le sommet, tu comprends qu'il y a encore un autre sommet. Vous savez, c'est comme celui qui monte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'alpinisme, monter un peu dans la montagne. Quand tu crois que tu arrives au sommet, et après tu arrives en haut, hop, et tu découvres qu'en vérité, il faut grimper encore.
Ça s'appelle les fractales.
Ça s'appelle comment?
Les fractales.
Ah, c'est horrible ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Après, quand on était jeune homme, c'est horrible. Tu avances, on était en vélo, ah, tu vois de loin comme ça, tu grimpes. Tu crois que t'es arrivé? T'arrives en haut, tu dis, ah non, on n'est pas arrivé. Parce que il y a rien de pire que ça. Qu'est-ce qu'on attend? On l'attend comme le feu, ça veut dire comme quelque chose que tu cherches. Mais ce que tu veux, c'est qu'à un moment, t'arrives, ah, j'ai trouvé. Et c'est ça ce que le Yetzer Tov aimerait, l'âme divine aimerait, que finalement, on retrouve ça dans la Torah. Donc, il va développer. Donc, Ava, Rabba, Vechiba, Yetera, Mimadregat, Avaza, Kerishvesh. Qu'est-ce qu'attend l'âme divine? L'âme divine, elle attend qu'on dépasse justement ce stade de la recherche comme le feu. Vei, Anikret, Bekatou, Ahava, Beta, Anugim. C'est ce qui est appelé dans le verset, Ahava, Beta, Anugim, l'amour du plaisir. Où c'est écrit ça, Ahava, Beta, Anugim? C'est où? Ça vous dit quelque chose, Ahava, Beta, Anugim? Ahava, Beta, Anugim. Je vous ai fait l'air, là, attendez.
Attends.
Shira Shirim.
C'est l'amour de... Du plaisir,
alors,
de l'amour et le
là-bas,
plaisir.
Là-bas, vous savez bien que ce que Rachid explique, que Shira Shirim, c'est une image. Là-bas, on parle officiellement de l'amour entre un homme et une femme. Et comment l'homme recherche la femme, et comment la femme recherche l'homme, et qu'ils se recherchent, etc., et qu'ils avancent. Et donc on parle d'un homme et d'une femme. Mais en vérité, c'est une image tout ça. C'est une image entre la femme, c'est nous, le Ham Israël, et l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, à un moment, Shlomo HaMelech, il parle de Ahava Betanugim. Il dit, ce que je recherche, c'est l'amour du plaisir. C'est quoi l'amour du plaisir? Maintenant, on comprend ce que c'est. C'est l'amour du plaisir, ça veut dire une fois qu'il sent qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Pas la soif, il cherche. Il sent qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Ça, c'est le plaisir qu'on cherche. L'itaneg al Hashem me'ein olamaba. Ça, en vérité, pour nous autres qui ne sommes pas tzadikim, c'est ça ce qui va se passer quand on va être au monde futur. Quand on va aller au monde futur, c'est écrit comme ça. C'est écrit que quand on va être au olamaba, tzadikim yoshvim, les tzadikim ils sont assis, venehenim miziv ashrina, et ils profitent du rayonnement de la shrina. Chaise longue. Chaise longue, mais au lieu que c'est le soleil qui tape, c'est la shrina. Tu peux dire, ouais, bof, bon. Bah ouais, chaise longue, c'est son équitable, je vois pas comment ça me parle. Mais ça me parle grave, ça. Pourquoi ça parle grave? Parce qu'en vérité, nous, aujourd'hui, on fait que chercher, mais on trouve pas. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à avoir ce plaisir-là. Mais quand tu arrives après 120 ans, que là, Kadosh Baruch Hu te laisse profiter de ce que tu as construit, il n'y a rien de mieux. Vous savez, si on pouvait donner un exemple, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui a bossé, qui s'est marié, qui a eu des enfants, les petits-enfants. C'est du bonheur. D'après, je suis pas grand-père, mais les grands-pères ici certainement confirmeront qu'apparemment, les petits-enfants, c'est du grand bonheur. C'est que du bonheur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est le fruit.
Un grand bazar.
C'est le fruit. On dit que les petits-enfants, c'est que le bonheur des enfants sans la galère. C'est ça? Ah, c'est ça. Il y a des exceptions, mais... Pourquoi?
On doit les garder ou pas?
Ça dépend, c'est voilà, si on les garde.
On doit les garder ou pas?
Ici, c'est
Gan Eden.
Ah, c'est pas
Gan Eden là.
Ah, d'accord. À chaque fois dans le Tania, quand c'est pas quoi là-bas, c'est
zéro. Mais là, ça veut dire le Gan Eden. Donc, juste un mouchoir, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi le plaisir du Olam Haba? C'est le plaisir de la retraite. C'est le plaisir quand t'arrives à un moment, ça y est, j'ai bossé, j'ai investi, voilà, maintenant je profite de mes enfants, de ma maison, de mon jardin, d'accord, de ma femme, etc.
De mon argent.
D'accord? Je profite de ce que j'ai fait. D'accord? Ça, c'est le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est quand tu profites. Mais quand t'es constamment en train de chercher, tu trouves pas, à un moment t'en as marre, ça te casse les pieds. Donc c'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est le moment justement, c'est écrit les Aneg à la chaîne. C'est le moment dans lequel les Neshamot, elles profitent. Mais quel terme on a employé? Les Aneg, c'est comme Ahava Betaanugim. Ça veut dire, ils sont plus en train de chercher, parce que maintenant on peut plus chercher, ils sont en train de profiter de ce qui a déjà été fait. Ça c'est Olam Haba. D'accord?
Ils récoltent.
Ça veut dire qu'en vérité, la Gemara elle dit clairement, elle dit que peut-être à l'exception des Tzadikim, mais ça on va développer dans la suite, Srar mitzvot be'ay alma leka. Le salaire des mitzvot dans ce monde-ci n'existe pas.
C'est la mitzvah.
D'accord? Ça veut dire que, bien sûr qu'il y a un salaire, et c'est sûr que Dieu nous récompense, mais la majorité des gens ne sont pas conçus pour comprendre le salaire du mitzvah dans ce monde-ci. On n'est pas conçus pour comprendre.
Il n'y a pas de salaire.
Où est le salaire? Il y a un salaire, mais on le comprend pas. Il m'intéresse pas. C'est comme quelqu'un qui investit, qui met à chaque fois tous les jours une pièce dans une machine. On dit oui, un jour tu vas gagner. Le bonhomme à la fin, il croit, il dit, mais attendez, mais j'ai pas gagné. C'est quoi ce truc-là, là? Si au moins une fois il gagne, il dit, bon, ça va, j'ai gagné. Mais le bonhomme, tous les jours, il met sa pièce, et tous les jours, là, il attend, il joue au loto, toujours les mêmes chiffres, il gagne pas. Il dit, bon, ça va, je vais jamais gagner.
Il dit, il m'a oublié. D'accord?
Il y a un problème. Ben, c'est la même chose. Là, quand on est dans ce monde-ci, on investit, mais sans forcément voir le résultat de ce qu'on fait. Peut-être qu'on voit le résultat, mais sans forcément profiter du résultat. C'est un profit. Sans forcément sentir qu'on profite, qu'on est arrivé à la fin, qu'on est arrivé au résultat. Alors que quand on arrive après 120 ans, là on arrive justement au Ahava Betaranugim, Leit Aneg al Hashem, ça veut dire on arrive justement au moment du profit. Alors on a, pour répondre à la question de Michael tout à l'heure, on a quand même un avant-goût à ça aujourd'hui. L'avant-goût c'est le Shabbat. C'est un avant-goût. Parce que qu'est-ce que c'est le Shabbat finalement? Toute la semaine j'ai travaillé, qu'est-ce que je fais le Shabbat? Je profite de ce que j'ai travaillé la semaine. Et c'est pour ça qu'on parle de Roneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Leit Aneg Betaranugim Barborim Uslav Edagim, dans le chant qu'on change le Shabbat, c'est le Shlichit. Leit Aneg Betaranugim. Parce que le Shabbat, c'est un peu un avant-goût. J'ai travaillé la semaine, je me repose, je profite, je savoure le Shabbat. On a imaginé que dans le monde futur, c'est un grand Shabbat. Leyom Shekulo Shabbat. C'est un jour dans lequel tout est Shabbat, ça veut dire que on est là uniquement à chercher à savourer le plaisir. Donc déjà, ça veut dire, on a appris une chose ici. C'est que pour la majorité des gens, le plaisir, la récompense et sentir qu'on a un résultat de ce qu'on a fait, c'est très compliqué dans ce monde-ci. Vous voyez, quand j'ai fondé une famille, j'ai des enfants, etc., à un moment, tu sens que t'as un plaisir. Et par exemple, tu vois, t'as des enfants, tu les as mis à l'école, etc., à un moment, tu vois, il fait les devoirs, les notes, etc., il y a des moments de plaisir, à un moment, tu profites de ce que t'as fait. Tu dis bon, voilà, ça va, on a un peu de résultat. Mais quand tu avances, et que bon, t'es constamment à la recherche, mais tu sens pas vraiment que t'arrives à un ah, D'accord, on kiffe. C'est compliqué, c'est pour ça que le Yetzer va jouer. On va avancer un petit peu. Il dit vea oneg ou be moar chokma ve sechel amit aneg be askalat Hashem vidyato ki fi asagat sichlo ve chokmato. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. L'âme divine, son trône, c'est où? C'est le cerveau. L'âme animale, son trône, c'est où? C'est le cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la recherche. Le cœur, c'est le sang. D'accord? C'est la recherche du plaisir, la recherche de quelque chose. D'un autre côté, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est le calme, c'est la compréhension. Le cerveau est comparé à l'eau. Le cœur est comparé au feu. Pourquoi le cerveau est comparé? On peut avoir de l'eau chaude, mais en général, quand on parle d'eau, l'eau, c'est une ligne d'apaisement. Les gens, quand ils veulent se détendre, où ils vont? Ils vont dans un endroit à côté, dans un endroit où il y a de l'eau, par exemple, à côté, ils entendent l'eau couler. Le fait même d'entendre l'eau couler, ça relaxe, n'est-ce pas? Ça, c'est la vraie raison pour laquelle les gens ils vont à la mer, pas pour faire des bêtises. La vraie raison pour laquelle les gens ils aiment aller à la mer, parce que entendre l'eau, ça relaxe. C'est écrit comme ça. Entendre l'eau, c'est, il y avait des fois des grands chachamim, quand ils sentaient qu'ils étaient en manque d'inspiration, ils allaient à côté de la mer, ils allaient en bord de plage, et ils marchaient, et le bruit de l'eau, ça calme. Et quand ça calme, automatiquement, ça calme la pression et le stress qu'on a. Et quand le stress, il se calme, quand le cœur se calme, automatiquement, hop, le cerveau prend le dessus. Et c'est là que le cerveau peut réfléchir calmement. On est d'accord? D'ailleurs, on le voit des fois, même en vacances, on voit justement que l'eau, ça calme. L'eau, ça nous calme. Et là, justement.
C'est des vacances, en même temps.
Voilà. Bon, après, voilà, ça dépend ce qu'on fait à côté de l'eau. C'est ça le problème. Voilà.
On médite.
Parce que des fois, à côté de l'eau, c'est le feu. Ça, c'est pas bon. Alors. Ok. Donc, ce qu'il dit ici, c'est quoi le oneg? Le oneg, le plaisir, c'est dans le cerveau. Pourquoi le plaisir, c'est dans le cerveau? Parce que le plaisir, c'est quand tu réalises que tu as trouvé ce que tu as cherché. La recherche, comme le feu, c'est le cœur. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Mais quand à un moment je réalise ce que j'ai trouvé, c'est un moment je parle plus, je bouge plus, je suis plus en effervescence. C'est fini l'effervescence. J'ai trouvé ce que je cherchais. Donc là, c'est un moment dans lequel c'est le cerveau qui contrôle complètement. Je savoure complètement le moment que je suis en train de vivre. Donc iprinat amayim, ça c'est le niveau de l'eau. Vezera orzarua shebik dushat nefesh elokit, c'est effectivement ce qu'il appelle ici ce qui a été planté, ça veut dire c'est les caractéristiques de l'âme divine qui est celle qui est toujours réfléchie. Donc rappelez-vous l'exemple que je donnais au début du cours, que l'âme animale elle te dit ce que tu veux et l'âme divine elle te dit ce qui est bien pour toi. Donc le cerveau en général te dit ce qui est bien pour toi, le cœur te dit ce que tu veux. Quand je suis devant une boutique et je vais acheter un produit que j'ai pas besoin, le cerveau me dit t'en as pas besoin. Donc le cerveau me dit, tu vas dépenser de l'argent, tu vas te mettre à crédit, tu vas galérer, enfin bon, tu vas dépenser pour rien, quoi. D'accord? Qu'est-ce que tu dis le cœur? Tu dis, non, je le veux, je vais l'acheter. Qui va gagner en général? C'est le cœur, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le cœur, il cherche, et le cœur, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, il ne te lâchera pas. C'est comme ça. Le cœur, tant que, d'ailleurs, très souvent on dit, mais bon, ça je mets off record, on dit que, en général, le cœur c'est comparé à la femme, et le cerveau c'est comparé à l'homme. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il obtient, il ne te sera pas tranquille. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas où aller. C'est ça, le cœur et le cerveau. Et donc, le cœur, on a dit le cœur et le cerveau, finalement, en nous aussi, il n'y a pas besoin d'aller chercher les femmes et les hommes, en nous aussi, on a le cœur et le cerveau, et le cœur ne te lâche pas tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Donc, pour revenir à notre sujet. Qu'est-ce que veut le cœur? Qu'est-ce que veut l'esprit? Le cœur veut rechercher. L'esprit recherche le calme, qui est après la recherche. Donc, s'il dit, qu'est-ce qu'aimerait l'âme divine? L'âme divine aimerait qu'on pense à Dieu, qu'on craint Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on fait que penser à Dieu, qu'on cherche Dieu, et qu'à un moment, on arrive en haut de la montagne, et là, waouh, le kiff. D'accord? Ame apechet le tov et prinat amaim che benefesh abemit, che mehem baout avot tanugol amazem mitrila. Maintenant, là, il va nous expliquer comment l'âme divine s'imagine. C'est très simple. On dit dans le schéma, on a commencé la semaine dernière, c'est écrit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et vous rappelez la semaine dernière, j'ai fini le cours par une question. C'est écrit tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur. Mais normalement, comment on dit en hébreu de tout ton cœur? On dit bechol libecha. Et là, c'est écrit bechol levavecha avec deux bêtes. Pourquoi avec deux bêtes? Qu'est-ce que répond Rashi? Rashi répond parce qu'en vérité, tu devras aimer Hashem avec ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara, ton bon penchant, ton mauvais penchant. Moi, je pose la question, comment c'est possible? Le Yetzer Hara, il n'aime pas Dieu. Le Yetzer Hara, il aime les plaisirs. Donc, maximum, ce que je vais arriver à faire, c'est que je vais arriver à le mettre par terre et lui dire, toi, tu te tais, d'accord? Et de faire en sorte que celui qui va prendre le contrôle du corps, c'est l'âme divine. Mais l'âme animale, jamais elle aimera Dieu. C'est pas son rôle. On ne peut pas transformer l'âme animale. C'est quoi cette histoire-là? Alors, est-ce que ça veut dire que seulement les tzadikim peuvent arriver à ça? Alors, regardez comment Admor HaZaken répond à cette question. C'est une question sur laquelle beaucoup d'encre a coulé. Il y en a qui disent non, ça veut dire que pendant momentanément, l'âme animale, elle va suivre, etc. Mais concrètement, on reste avec la même question. L'âme animale, elle aime pas Dieu, c'est pas son rôle. Le Yetzer Hara, il veut pas aimer Dieu. Le Yetzer Hara, son rôle, c'est de faire des bêtises. Donc, si déjà j'arrive à aimer Dieu avec mon Yetzer Tov, c'est déjà pas mal. en plus tu veux que même le Yitzhara, moi je vais te dire, il y a un principe qui dit tu cherches trop, t'as rien. D'accord? Le mieux est l'ennemi du bien. Cherche pas les problèmes. Si déjà t'arrives à aimer Dieu, c'est déjà très bien. Tu veux aimer aussi avec un animal, c'est trop. Qu'est-ce qu'il te répond ici? Il te dit non. Il te dit c'est très simple. Il te dit pourquoi on te parle ici de Bechol Levavecha? Parce que la clé de la réponse se trouve dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. Qu'en vérité, la différence qu'il y a entre le bon penchant et le mauvais penchant, il est conscient de ça, le bon penchant, c'est que le mauvais penchant, il te propose des plaisirs que tu obtiens le plaisir. Tu obtiens le kiff. Tu obtiens ce que tu cherches. Alors qu'en général, l'âme divine, tu obtiens pas ce que tu cherches. Donc quel est le rêve de l'âme divine? Son rêve, c'est qu'il arrive à prendre le contrôle du corps et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne arrive à un kiff jusqu'au bout. Et là, il dit comme ça, qu'est-ce que je vais gagner avec ça? C'est quand après Yitzhara, il arrive, il me propose une petite avéra, qu'est-ce que je vais lui répondre? Je vais lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu me proposes? Un kiff? Mais moi j'ai un kiff déjà, j'ai déjà mes kiffs. J'ai pas besoin du kiff. Pourquoi le bonhomme qui cherche un plaisir, le bonhomme qui cherche à aller en extase, qui cherche à aller s'évader, c'est parce qu'il a pas ça dans la vie. Mais s'il a déjà ça dans la vie, il dit mais j'ai pas besoin de tes kiffs, laisse-moi tranquille avec tes kiffs, j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc voilà pourquoi, comment s'imagine l'âme divine? L'âme divine elle dit, moi je m'imagine que l'eau de l'âme divine va recouvrir l'eau de l'âme animale. Alors vous avez bien compris maintenant c'est quoi l'eau? L'eau c'est quoi? C'est le sentiment quand on a d'apaisement, quand on a trouvé ce qu'on cherchait. Ça en général on l'a que dans l'âme animale. Et l'âme divine aurait espéré qu'on arrive à le retrouver aussi dans la Kedusha. Et quand tu arrives à le trouver dans la Kedusha, automatiquement tu arrives à calmer avec ça, avec ton âme animale. Voilà comment l'âme divine s'imagine. Alors maintenant, là les commentaires font remarquer, je reviens encore une fois à ce que Michael a dit tout à l'heure, qu'effectivement, dans sa vie, on peut arriver à certaines phases dans lesquelles on est comme ça. Des gens qui font Teshuva, et qui pendant des fois une période, un mois, deux mois, un an, deux ans, ils sentent qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais après, où est le problème? Pourquoi ça s'arrête? Parce qu'après, le problème, c'est qu'on sent que ça nous dépasse encore. Et donc, c'est comme celui qui, comment vous appelez ça tout à l'heure, monsieur Bichuit, fractal, comment vous appelez ça? Et fractal. D'accord?
Et fractal, oui.
Ouais,
ça veut dire qu'à chaque fois que t'as une subdivision, ça finit jamais.
Donc, à un moment. Zach.
Bon, on a le Cohen, on a le Lévi, c'est
bon. On a Steve Lévi. Zach, va voir. On a ce qu'il faut.
Voilà, là, on va t'en trouver.
Ce qu'il faut. D'abord, il y a là-bas. Et donc, pour répondre à la question, je viens de répondre à la question, qu'effectivement, d'accord, il y a des périodes dans la vie dans lesquelles on peut se sentir comme ça. Mais il faut savoir que quand on n'est pas tzaddik, c'est momentané. La force du tzaddik, c'est que le tzaddik arrive à être comme ça. Pour reprendre l'exemple des courses que j'ai donné tout à l'heure, Serge. Pour reprendre l'exemple des courses que j'ai donné tout à l'heure, le bonhomme, à un moment, il peut avoir une piste droite. Et il peut croire que ça y est, c'est fini, maintenant, on peut faire ligne droite. Et il avance, vas-y, il décolle, d'accord? Mais bon, après, à un moment, ça va s'arrêter. À un moment, c'est la fin de la piste. Ça veut dire que voilà, ça va s'arrêter. À un moment, il faudra revenir à la réalité. C'est la même chose. Nous, on peut, à un moment, tu peux croire que ça y est, j'ai trouvé, je trace, ça y est, je kiffe. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Parce que, à un moment, le Yetzara viendra te rappeler, oui, mais tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Alors que le Tzadik, lui, l'a trouvé. Donc, c'est ça, la volonté de l'âme divine. La volonté de l'âme divine, c'est de rechercher et d'arriver à trouver ce qu'on cherche de manière à ce qu'avec ça, l'eau de l'âme divine va éteindre l'eau de l'âme animale. Ça veut dire l'apaisement du plaisir de l'âme divine va faire en sorte que ça va calmer l'apaisement de l'âme animale, que l'âme animale quand elle te prend quelque chose, je dis mais attends, j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de tes plaisirs, j'ai pas besoin de tes affaires. On est d'accord? C'est ce qu'il dit ici. Donc moi, chez Katouf, comme c'est écrit, Be'et Tzraim, est-ce que vous avez dans les mots?
Alors, d'amour.
Oui.
C'est ça que t'as amour, en fait.
Non, excuse-moi, je reprends. Il y a deux amours. Il y a l'amour comme le feu, l'amour comme l'eau.
L'amour comme l'eau.
Voilà.
Okay. C'est ça le tanou. C'est un amour, c'est l'apaisement que j'ai d'avoir, d'aimer. De...
Le tanou, c'est l'apaisement d'avoir trouvé ce que je cherchais.
On parle d'amour. Trouver ce que je cherchais, c'est d'être, de comprendre au fait.
Oui.
D'aimer à cada jour.
Non, mais de sentir que j'ai atteint le sommet.
On parle d'amour.
Ah oui? C'est ça l'amour. C'est que je sens, je cherche, je sens que j'ai trouvé ce que je cherchais.
Là, je m'aime à moi.
Non, pas du tout.
Je cherche,
peu importe, je parle du plaisir. Le plaisir, Betaranugim, c'est quand tu as le plaisir d'avoir trouvé ce que tu cherchais. Ça veut dire que le plaisir est tellement fort, le plaisir que tu as à ce moment-là, que tu éprouves est tellement fort, qu'il va calmer l'ardeur et le feu que tu avais. C'est un moment de calme complet. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va continuer un peu dans les mots.
On peut désobéir et aimer toujours.
Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, tu n'as pas le plaisir de sentir d'avoir trouvé quelque chose. Tu comprends? On va reprendre l'exemple de la soif. Un exemple plus simple. L'exemple de la soif. Quand j'ai très soif, d'accord? J'ai très très soif. J'en peux plus. Il fait très très soif. J'attends une chose, c'est de boire quelque chose de frais. Tant que j'ai pas la chose frais dans la main, j'ai une soif énorme, j'ai le feu. Et plus que ça, quand je commence à boire, j'ai encore le feu. La preuve, c'est qu'il boit, il boit, il boit, il veut pas s'arrêter. Mais après un moment, il s'arrête. Et là, quand il s'arrête, qu'est-ce qu'il sent à ce moment-là?
Qu'il a plus soif.
Qu'il a plus soif. Il a apaisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apaisement est tellement fort qu'il a calmé son feu. Et donc, du coup, il a plus soif. Et là, à ce moment-là, il fait, ah, il a kiffé.
Mais il est temporaire aussi, cet apaisement.
Tu as raison, tu as raison. Tout est temporaire.
Donc, le kiff qu'on peut avoir, tout le monde peut l'avoir, sauf qu'il y en a un qui l'a tout le temps et un qui est temporaire.
Mais sauf que la différence, c'est que le Yetzer Hara te propose des kiffs que tu peux reproduire où tu veux, quand tu veux. Le Yetzer Hara, il te propose des kiffs que tu peux reproduire quand tu veux, où tu veux. D'accord. Alors que le Yetzer Tov, il te propose des trucs, bon, un peu, propose, dis, ouais, tu vas prendre le lit, tu vas te casser la tête pendant 3 jours, et après, tu trouveras un truc, tu verras la lumière, tu dis, bon, ta lumière, elle est bien gentille, mais.
Ça, c'est ça, hein. Le Yetzer Hara, quand il te fait faire un kiff, quand tu vas revenir ensuite pour refaire le kiff, comme il y a déjà le goût que tu as déjà eu, c'est pas complet.
Donc il va te chercher autre chose.
Donc il va te chercher plus fort.
Plus fort. Et tu trouveras. Et il trouvera.
Il a besoin d'une dose supérieure.
Il n'y a pas de problème. Exactement. Il trouvera. Il n'y a pas de problème. Il faudra à chaque fois augmenter les doses. C'est pas un problème. Alors, Okumo Shekatu. Mais je pense que cette partie du Perek Tet est fondamentale parce que ça finalement, ça nous explique pourquoi on peut pas gagner cette guerre ad vitam aeternam. On peut la gagner temporairement, mais que le Yetzirah reviendra toujours à la charge parce que lui, son argument de choc, c'est que lui il te propose des choses concrètes et réelles. Et ça, tu peux rien dire, tu comprends? Quand t'as deux commerciaux, un il te propose un truc abstrait que les résultats seront dans 2000 ans, et l'autre il te propose un truc concret, réel, que tu peux reproduire quand tu veux, c'est compliqué. Faut pas le voir. Très compliqué. Donc c'est pour ça que le Yetzirah, il est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça, rappelez-vous au début du Pérec, comment on avait appelé le Yetzirah? Meler, Gadol, il est grand, il est imposant, parce qu'il est là. Tu peux pas lui enlever ça. Il est grand et il est là. Il te donne quelque chose de tangible, de concret et de réel.
Sans ça, il serait pas.
Alors on va avancer un peu dans les mots et après on va développer. Parce que là je vais répondre à une autre question aussi aujourd'hui, j'aimerais arriver à la fin du Pérec. Il va répondre à la question finalement pourquoi le Yetzer Hara a été créé. Puisque d'un autre côté c'est Dieu qui a créé le Yetzer Hara. Alors est-ce que ça veut dire que le Yetzer Hara veut se battre contre Dieu?
Il fait la volonté de
Dieu.
Il veut nous renforcer.
D'un autre côté, mais d'un autre côté, on n'arrête pas de le dépeindre comme celui qui veut faire nous faire fauter.
Ah oui, c'est ça.
On va développer.
C'est Dieu qui a créé
l'équipe. C'est Dieu?
Bien sûr. Il n'y a pas de Yetzer Hara sans que Dieu.
Ok. Alors pourquoi on l'appelle Ra dans ce cas-là?
Il nous emmène vers le Ra.
Ah non? On n'a pas dit Yetzer Améville Ra, on a dit Yetzer Hara.
Bah oui, mais il nous emmène.
Il n'est pas mauvais. On va voir. On va voir. On va développer. Là, je vous donne juste un petit preview. Okumo Shekatu, comme c'est écrit. Vous avez dans les mots Okumo Shekatu? Alors, en bas de la page 138.
Bon appétit.
Allez, on accélère un petit peu. Okumo Shekatu, Beetzraim, Char, Nun, Perek, Gimel, Beshem, Azoa. Comme c'est écrit dans le commentaire de Rabbi Chaim Vital. Au nom du Zohar. Shara, Nepar, Liot, Tov, Gamour, Kumo, Yetzer, Tov, Mamash. Comment le Rabbi Chaim Vital explique ce qui est écrit Bechol Leva Vecha, servir Dieu, aimer Dieu de tout son cœur? Rabbi Chaim Vital dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a réussi à ce niveau-là, justement, qu'il a réussi à trouver le plaisir, de la satisfaction, de l'apaisement dans le bien, celui-là, il a réussi à transformer le mal, que le mal devient comme le bien. Pourquoi? Alors c'est très important ce qu'on va expliquer ici. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mal en nous. Il y a seulement une volonté d'aimer. Une volonté d'aimer et de sentir qu'on est arrivé à obtenir jusqu'à la fin. Seulement, comme malheureusement, nous, on n'arrive pas à arriver à le faire dans le bien. Donc, c'est quoi l'argument du Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il dit, ah, t'as envie d'arriver à tes fins? Moi, je vais donner quelque chose que tu vas arriver à tes fins. Mais en vérité, finalement, pourquoi le Yetzer Hara arrive? Parce que lui, il arrive à donner ce que je recherche. Moi, je vais arriver à la fin de quelque chose. Je vais sentir le plaisir de l'apaisement. Mais, en vérité, moi, au fond de moi, moi, Mendy Asoul, je veux pas faire du mal. Moi, ce que je veux, c'est sentir que j'ai cherché quelque chose et que je suis arrivé à un apaisement. Comme le Yetzer Tov est rarement en mesure de me proposer ça, donc du coup le Yetzer Hara il arrive par derrière, il me propose ça, le Yetzer Hara malheureusement, bah il est là, et c'est pour ça qu'il a un poids qui est toujours plus fort. Pourquoi j'explique ça ici? Pour dire à Rabbi Chaim Vital que celui qui a réussi à arriver à un niveau, qu'il a réussi à aimer Akadosh Baruch Hu à tel point qu'il est arrivé à l'amour de l'apaisement, c'est-à-dire qu'il est tellement à un niveau tellement fort qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, celui-là il a transformé le mal est devenu comme le bien, parce qu'il n'y a plus de mal. Le mal ne tient pas la route. C'est quoi le mal? Il va me proposer quelque chose. Dis-moi, t'inquiète pas. Moi, je peux trouver dans le bien ce que je cherche. Y a pas de problème. D'accord? C'est évident. Seulement quoi ? Le problème, c'est que malheureusement, comme on a expliqué, on n'est pas comme ça.
Il y en a un sur un million.
Même pas. Même pas.
Bon, alors attends, dis-moi. Mais moi je m'inscris en...
Il y en a un sur... Combien on est de personnes dans le monde ? 5 milliards ? 6 milliards ? Il y en a un sur 6 milliards. 2 sur 6 milliards. Le ratio est...
Mais où il est l'autre ?
Le ratio est nul.
Oui. C'est qui l'autre ?
On parle
de quelqu'un dont on veut apprendre les midotes, mais on sait très bien que c'est impossible qu'on arrive à son niveau.
Très bien, bonne question. En fait, la raison pour laquelle j'explique tout ça ici. C'est une très bonne question. La raison pour laquelle le Tania nous parle de tout ça ici, c'est très simple. Il nous parle de tout ça ici parce qu'en vérité, il veut nous expliquer qu'est-ce que veut l'âme divine, qu'est-ce que veut l'âme animale, pour comprendre après le combat qu'il y a entre les deux. Et quand on aura compris ce que chacun veut, une fois qu'on a compris quels sont les objectifs de chacun, parce qu'après on va expliquer l'âme animale, on pourra déterminer après qu'est-ce qu'on appelle une victoire et qu'est-ce qu'on appelle une défaite. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Quand on a compris ce que chacun cherche, par rapport à ça, on pourra déterminer qu'est-ce qu'une victoire, qu'est-ce qu'une défaite. Et donc c'est par rapport à ça qu'on pourra définir qu'est-ce qu'un tzaddik parfait, celui qui a eu la victoire parfaite, qu'est-ce qu'un tzaddik imparfait, d'accord, semi-victoire, qu'est-ce qu'un bénoni, enfin pas semi-victoire, presque victoire, qu'est-ce qu'un bénoni, celui qui a une semi-victoire, qu'est-ce qu'un rachat ? D'accord ? Racha Gamour, Racha Sheno Gamour, c'est-à-dire celui qui a défaite complète, défaite incomplète. Ça veut dire qu'avant de comprendre qu'est-ce qu'une défaite, qu'est-ce qu'une victoire, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que chacun veut. Donc là, on commence à comprendre. Et quand on lit ça, finalement, on comprend qu'en vérité, la majorité des gens, 99,999% des gens, ne pourront jamais devenir tzaddik. Donc ne pourront jamais avoir de victoire dans le sens où l'âme divine se l'imagine.
Donc ça veut dire que moi je pense qu'on peut devenir tzaddik à ce niveau ponctuellement.
Mais oui.
La différence avec celui-là que tu nous présentes, c'est que lui, il est là tout le temps.
Tout le temps. Bah oui.
Mais nous, on peut arriver à ça.
On peut arriver à ça temporairement, voilà, ponctuellement.
Sur un truc.
Oui, on peut. Mais ça va passer après. Et c'est pour ça que. Non, mais c'est ça la force du Yetzer Hara. Ouais. Il te présente des choses concrètes et réelles. On a du mal à faire le poids. Ça veut dire du Yetzer Hara, on est obligé de se sauver. Alors, il n'y a pas ça. On n'a jamais vu une personne qui va se sauver dans le Dvar Torah. Il va sentir que ça va le prendre. Non, mais bon, on ne sauve pas.
Thomas Ménard, il me dit bien, ne sois pas trop de sa vie.
Oui. Alors, on verra ça la semaine prochaine. Ça s'appelle Perek Yud. Qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik ? C'est quoi un tzaddik ? Etc. On va voir ça.
Parce que, en vérité, peut-être qu'on n'a jamais été mis sur les rails pour devenir tzaddik.
On va voir ça après. Ça, je rentre pas dans le tzaddik. Pour l'instant,
comme
j'ai expliqué, vous savez, le Tania, c'est un livre qui est très structuré. Comme vous pouvez le voir. Avant même de commencer à expliquer qu'est-ce qu'un tzaddik, qu'est-ce qu'un rachat, on a expliqué d'abord qu'il y avait deux âmes à l'intérieur. On a expliqué qu'est-ce que veut chaque âme. Une fois qu'on a compris qu'est-ce que veut chaque âme, après on va comprendre qu'est-ce qu'une victoire, qu'est-ce qu'une défaite. Vous comprenez ? Quand il y a deux pays qui sont en guerre, avant de comprendre si un a gagné et l'autre a perdu, il faut d'abord savoir quels étaient les objectifs de chacun. Et quand on a défini les objectifs, là on peut comprendre si on a gagné ou on a perdu. Là apparemment, l'objectif de l'âme divine est un objectif qui est inatteignable pour la majorité des gens. C'est impossible, inaccessible, c'est impossible, on peut pas arriver à ça. Surtout quand on voit ce qu'il dit ici. Il veut arriver à un niveau que tellement il kiffe dans la Torah, qu'il sent qu'il a obtenu ce qu'il cherchait, et que quand le tsar lui propose une avéra, il lui dit « Laisse-moi tranquille, je kiffe déjà ». Qui arrive à ça ? Personne n'arrive à ça.
Continuellement.
Les avot, continuellement. Non. Il
manque une définition quand même.
Oui.
On peut rentrer les avot dans le
mal, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu.
Le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté. C'est quoi la volonté de Dieu ?
C'est les mitzvot.
C'est de l'aimer.
Le bien.
Le bien.
C'est de l'aimer.
Non, pas forcément.
C'est
l'amour, c'est la base des mitzvot, des positives. Et la crainte, c'est la base des mitzvot négatives. Mais le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. D'accord ? Donc en vérité, le prototype que s'imagine l'âme divine, elle aimerait que tout notre corps fasse que la volonté de Dieu. Rien d'autre. Tes kiffs sont dans ça, tes centres d'intérêt dans ça, ton sentiment d'apaisement, tes kiffs, tout dans ça. Mais évidemment, c'est impossible. C'est impossible pour nous, c'est impossible.
Et puis c'est la limite.
Alors, donc, on va continuer ce que dit le Zohar maintenant ici. Donc, Rabbi Chaïm le nom du Zohar. Be'asir abegadi matzoim menushem tanuge olamaze sheu melubash ba'em. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaïm Vital? Rabbi Chaïm Vital, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit finalement, en vérité, le moteur à la base chez nous, il est neutre. C'est quoi le moteur? J'ai envie d'aimer, j'ai envie de kiffer. Mais comme maintenant, j'arrive pas à trouver dans quoi kiffer dans la Torah, donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le Yitzhara, il va me proposer des kiffs. Donc avec le temps, à force de chercher les kiffs du Yitzhara, chaque fois que je fais un kiff, une bêtise, je mets des vêtements sales. Je me salis. Et après, à la fin, malheureusement, ce qui arrive, c'est que je baigne dans la, excusez-moi du terme, dans les excréments, c'est ça? Je baigne dedans et je kiffe. Le bonhomme, il kiffe, il est dans une piscine d'excréments. Le médecin, il a plongé parce qu'un enfant, quand il fait une bêtise, au début, il est gêné. Au début, l'enfant, il est gêné quand il est timide. Il a honte de faire ça à Vera. Et quand après, il fait. Après, tellement on fait les excréments, quand on est là, il kiffe dans les excréments. Une fois, un machal, qui a amené les chassidim, le chassidim a un machal comme ça. Il dit. Il dit. Il y avait une fois, un oiseau. On a parlé du froid tout à l'heure. Il y avait une fois un oiseau qui était dehors, dans la rue, en hiver. Il faisait très froid. Et il avait très très froid. Et il levait sa tête. Il était comme ça, recroquevillé. Il essayait de se réchauffer. Impossible à l'horizon de se réchauffer. Il y a un âne qui passe. Et il a une envie pressante de lâcher un excrément. Qui est très chaud. Hein, les excréments des animaux sont particulièrement chauds. Alors l'âne, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'âne, il arrive, il lâche un excrément, l'excrément, il tombe sur l'oiseau, et donc du coup, l'oiseau, ça le réchauffe, l'oiseau, il fait « Ah !» L'oiseau, il est en plein kiff. Alors le machal qu'amenait les chassidim, c'était comme ça, c'était...
D'accord.
Pas tout celui qui se lâche sur toi te veut du bien, et quand il se lâche, c'est pas forcément pour ton mal.
Non, c'est pas forcément pour ton bien, non.
Bon, c'est une image, hein, c'est l'image. Parce que l'oiseau, il est là, il kiffe, il est dans les excréments, mais il kiffe, il est en plein kiff. Qu'est-ce que tu kiffes dans les excréments? C'est la même chose. C'est-à-dire que le Yitzhara, il nous propose des kiffs. Après, tellement on n'a rien d'autre, que le bonhomme, il a que ça, parce qu'il n'y a rien d'autre à prendre, d'accord? Donc, il prend n'importe quoi, il va se shooter à n'importe quoi, d'accord? Il prend n'importe quoi, et après, à la fin, on plonge dans les bêtises, on plonge dans la touma, on plonge dans les excréments, mais on kiffe. Ah, le bonhomme, c'est chaud, il kiffe. D'accord? Chemichement. Donc, il dit Rabbi Chaim Vital, il dit, c'est quoi qu'est-ce qu'aurait aimé l'âme divine? Elle aurait aimé te montrer qu'est-ce que c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que c'est un vrai kiff? Un kiff divin, un kiff de spirituel. Et là, il se dit, quand le bonhomme va comprendre qu'est-ce que c'est le kiff spirituel, il va dire, mais, de lui-même, il va dire, mais c'est les excréments, je veux pas de tout ça. Ça, c'est comme ça que l'âme divine aimerait qu'on soit. C'est-à-dire que le bonhomme, il arrive à un tel niveau, que de soi-même, il se dit, mais c'est des bêtises tout ce que j'ai fait. Jamais j'aurais dû faire des choses comme ça. Voilà comment l'âme divine aimerait qu'on soit.
Tu as dit que le rat, c'est le contraire de la volonté divine.
Oui.
Comment il peut être né par quel tort alors?
Parce que, le rat, en vérité, c'est ce que tu m'as expliqué ici. Le rat, en vérité, c'est quoi? Le rat, c'est quand moi, je cherche l'apaisement, et donc l'apaisement, je trouvais dans le mal. Mais quand j'ai réussi à reprendre cette capacité d'aimer, de kiffer, et la mettre dans le bien, donc cette capacité d'aimer qui, en général, je la mets dans le mal, elle va être dans le bien maintenant. Il n'y a pas de raison. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est une personne, toute sa vie, il cherche des kiffs, d'accord, moindres, et qu'à un moment, on lui propose des kiffs beaucoup mieux, d'accord, et qui sont en plus neutres. D'accord? Parfait pour la planète, rien, pas de problème. Dieu, il te dit, amen, c'est une mitzvah. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Je kiffe, c'est une mitzvah, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour moi. Vas-y, on prend. Quel problème?
Que le rat, il est né par l'étoffe. C'est que je vais plus vers le rat, puisque j'ai compris que l'étoffe était...
Non, le rat, ici, dans le sens que ce qui est utilisé en général dans le rat. Ça veut dire le taranouk du rat. D'accord?
Ah, c'est ça.
Voilà. Non, on va continuer. Vechen, pareil. On va continuer un petit peu. She'ar kol amidot shebalev. Alors, pareil. Toujours dans le prototype que s'imagine l'âme divine, donc on a dit elle aimerait les pensées pour Dieu, l'amour pour Dieu, la crainte, tout pour Dieu, elle aimerait aussi que tous les autres midotes du cœur, par exemple, pour ceux qui étaient au cours de Shabbat avant Mincha, on a expliqué les différents midotes qu'il y avait dans le cœur, notamment la capacité, l'humilité, la victoire, d'accord, l'harmonie, donc on a expliqué longuement, je ne pourrais pas résumer en quelques temps ici maintenant ce qu'on a fait pendant, en deux cours, d'accord, en deux cours d'une heure, mais en gros ça veut dire qu'on a des capacités en nous, un moteur qui à la base est neutre, mais comme malheureusement on n'arrive pas à les exploiter dans l'âme divine, donc automatiquement l'âme animale elle s'éclate avec. Et donc l'âme divine aurait aimé reprendre le contrôle de tout. Vechel, pareil, koach hadibur shebapé, la parole, d'accord, la force de la parole, va marshava shebamoar, l'intellect qu'il y a dans le cerveau, iyum et moulaim, comment aimerait l'âme divine, aimerait que tout ça, la parole, la pensée, l'action, tout, iyum et moulaim, min levouché, a marshava vadibur shenefesh elokit levada. Elle aimerait que tout ça soit empli entièrement et exclusivement de la pensée et la parole de l'âme divine, ça veut dire Shem qui sont Marchevet Hashem Vetorato. Voilà, l'âme divine te dit, on va toute la journée penser à la Torah, Liot Sirato Kolayom, que le bonhomme toute la journée il va étudier le Pasik Koumé Megirsa qui ne s'arrête jamais. Vous savez qu'il y a des maîtres comme ça dans la Gemara. On dit qu'il y a des maîtres dans la Gemara, toute parole qui sortait de leur bouche c'était pour étudier la Torah. Je ne sais pas si vous imaginez. Le bonhomme, tout ce qui sort de sa bouche pour étudier la Torah. C'est pour ça qu'on dit que Talmid Chamim, même quand il parlait des discussions qui avaient l'air comme ça anodines, les élèves, tout de suite, ils étaient aux aguets parce qu'ils comprenaient que, même dans une question qui a l'air anodine, c'est une étude. Parce que le rave, il est encore en train de réfléchir.
Donc, il ne parlait pas, par d'accord, exemple, avec sa femme.
Bien sûr. Mais dans ça, il y avait une étude.
Ça va, mais il ne parlait pas avec sa femme d'un problème qui est...
Bien sûr.
Quotidien.
Mais dans ça, il y a une étude. C'est-à-dire que dans ça, il est en train de réfléchir comment on va faire dans ce problème la volonté de Dieu. Partout, il voit Dieu partout. C'est très compliqué. C'est-à-dire que le bonhomme, il n'a pas de liberté.
Non, c'est pas une liberté, il a choisi sa liberté.
Oui, mais ça veut dire qu'il n'a pas de liberté dans le sens qu'il n'y a pas un moment dans lequel il dit « Je rends des comptes à personne, je fais ce que je veux. » Il n'y a pas. Je fais constamment ce que Dieu veut. C'est un niveau qui est très compliqué. Et la Gemara nous raconte qu'il y a des gens comme ça. Et les sédiquimes sont comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, c'est quoi Ruach HaKodesh ? Ruach HaKodesh, c'est quoi ? C'est l'inspiration divine. En vérité, l'inspiration divine, c'est comme un satellite. Un satellite. Si j'ai la bonne parabole, qui est bien nettoyée, qui est bien propre, qui est bien positionnée, je peux capter le signal n'importe où. Je peux le mettre dans cette maison, dans une autre maison, n'importe où dans le monde. Si j'ai la bonne parabole et que je la positionne comme il faut, je vais capter. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est que c'est la même chose. L'inspiration divine, Dieu, il envoie des signaux. Il faut les capter. Si le bonhomme, il est là constamment, c'est quoi ses kiffs, c'est quoi son intérêt, c'est le mal. Évidemment qu'il ne capte pas ses signaux. Le tzaddik, il n'a pas besoin de faire un effort pour capter ses signaux pour avoir l'inspiration divine. Le fait même qu'il devient kadosh, automatiquement son corps devient plus sain, son corps devient vraiment sain avec un T et santé. Donc automatiquement, comme il devient beaucoup plus raffiné, son corps capte des choses que nous on ne voit pas. Son œil voit des choses que nous on ne voit pas. Nous, comme nos yeux, on habitue nos yeux à voir des bêtises et à faire des bêtises. Donc automatiquement, on ne perçoit pas, notre vision est limitée. Mais un tzaddik qui te regarde, tac, il t'a scanné. Pourquoi t'as scanné ? Parce que le tzaddik, comme il s'est habitué à voir que le bien, donc automatiquement, il a une autre perception. Il n'y a pas besoin d'avoir un miracle pour ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas besoin d'un miracle pour ça. D'ailleurs, en passant, vous remarquerez que très souvent, les enfants ont un petit peu ça, des tzaddikim. Des fois, un enfant, tout de suite, il voit quelqu'un qui parle et il dit « Mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es triste ?» Des fois, des choses que même les adultes ne remarquent pas. Et les enfants, ils remarquent. Parce qu'un enfant, c'est pur. Et quand c'est pur, il n'a pas le regard et l'esprit qui a été altéré par toutes les bêtises que nous, on a mis, tous les excréments que nous, on a mis dans la tête. Donc l'enfant, quelque part, entre guillemets, il a encore un peu de sadique sur ça. Il a encore un peu, c'est comme un juste, c'est comme un saint. Et donc c'est pour ça que l'enfant, il n'a pas besoin d'une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, comme il n'est pas altéré par des bêtises, donc automatiquement, il voit des choses. Il voit des choses, il voit le Emet. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, c'est le Emet. Les enfants, quand ils voient les choses, ils voient tout de suite le Emet. Imaginez que le tzaddik, si on peut dire, toute sa vie, c'est comme un enfant. Toute sa vie, il est comme un enfant. D'ailleurs, il faut raconter une petite anecdote. Il y avait une fois un grand penseur, un philosophe, qui était venu chez le rabbi en Yichidut, en entrevue privée. Une entrevue qui avait duré très longtemps. Et à l'issue de cette Yichidut, les élèves de la Yeshiva qui étaient à côté, donc ils étaient curieux de savoir, et répétez-nous quelque chose que le rabbi a dit. En plus, le rabbi en général, il restait avec une personne, je ne sais pas, 5 minutes. Mais là, il est resté je ne sais pas combien d'heures. Donc, il était curieux de savoir. Alors, il leur a dit comme ça. Il leur a dit, je pourrais pas vous répéter ce que le rabbi m'a dit, mais une chose je pourrais vous dire. C'est que votre rabbi est très intelligent. Bon, comme on sait, les tzadikim, ils ont tout est dans la Torah. Mais il a dit, dès qu'on parle de Dieu, de la foi en Dieu, sur tout le reste des sujets, quand je parle, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un de très 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 intelligent, cerveau très développé. Mais dès qu'on parle de la foi en Dieu, j'ai l'impression que je parle à un enfant. Il a la émouna d'un enfant. Ça veut dire que c'est comme un enfant. Un enfant, il dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est un tzadik. C'est que pour lui, quand il parle de Kadosh Baruch Hu, il a un niveau de perception et de réalité comme un enfant. C'est-à-dire, c'est comme ça et c'est tout. Et c'est comme ça, c'est évident. Le tzaddik, il arrive à ce niveau-là. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est que l'âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle aimerait que toute la journée, on fasse qu'étudier la Torah, dire la Torah, penser la Torah, aimer à Kadosh Baruch Hu, craindre à Kadosh Baruch Hu, penser à Dieu, tout autour de Dieu, de Kadosh Baruch Hu. Vekoa Hama, Sish Beyadav, ainsi que l'action qu'elle a dans ses mains, ou Sharema Hevarav et tous les membres, Iyub Maasa Mitzvot Levad, qu'on fasse, l'âme divine aimerait qu'on fasse que des mitzvot avec ça. Chez Hu, les vous, Shashlishish, Alanefesh, Elokit. Rappelez-vous qu'on avait trois moyens d'expression. C'est quoi les trois moyens d'expression, Serge? Pensée. La pensée. L'action. La parole. L'action. Et l'action. Et donc, l'âme divine aimerait que les trois vecteurs, les trois moyens d'expression, les trois vêtements, pensée, parole, action, soient occupés uniquement à faire du bien, à faire la Torah. Ça, c'est l'âme divine. Vous avez remarqué que l'âme divine, l'Admor HaZaken, nous a raconté longuement ce qu'il veut, ce qu'il aimerait qu'on soit. Curieusement, en fait, c'est pas curieux, c'est évident. Pour l'âme animale, il va nous dire en deux lignes ce qu'elle veut. Pourquoi il va nous dire en deux lignes? Parce que l'âme animale, on la connaît. On n'a pas besoin qu'il nous fasse une description. Pour l'âme divine, comme on la connaît pas, donc il faut nous raconter ce qu'elle veut. Et donc c'est pour ça qu'il nous a, avec beaucoup de termes, il essaie de nous expliquer qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on soit. Il nous a développé, etc. Mais l'âme animale, c'est simple. Pile le contraire de ce que je viens de dire. Tout ce qu'on a dit pour l'âme divine, pile le contraire, vous mettez, c'est l'âme animale. L'âme animale, ah, seulement, nefesh avemit shumé aklipa, l'âme animale qui, elle, vient de la klipa, donc du mal, retsona sa volonté, le hefer mamash, pile le contraire. Ça veut dire, l'âme divine, elle veut qu'on pense à Dieu, l'âme animale, elle veut qu'on pense à l'ego. D'accord? L'âme divine, elle veut qu'on parle des divrei Torah, l'âme animale dit, tu vas parler une bêtise. L'âme divine veut qu'on pense à des divrei Torah, l'âme animale te dit, tu vas penser maintenant une bêtise. L'âme divine veut que j'aille faire une mitzvah, l'âme animale te dit, tu vas aller faire une bêtise. Pile le contraire. Alors vous imaginez, c'est quoi le problème? Moi maintenant, d'accord, monsieur, d'accord, monsieur le bonhomme, monsieur Mendiassouline, moi je suis entre les deux. C'est quoi moi? Moi c'est celui qui est là, je suis né, j'ai deux moteurs en moi. J'ai un moteur qui veut faire que du bien, du style le grand sadique, le saint, d'accord. D'un autre côté, j'ai un cancre en moi, un rachat, Yeterara qui veut faire que du mal. Et moi je suis là maintenant, je dis vas-y, lequel il va gagner maintenant? Qu'est-ce que je fais? C'est horrible. Qu'est-ce que je fais moi? D'accord. Je sais plus où aller. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais le problème c'est quoi? C'est que par définition, si tu fais rien, le Yetzirah est plus fort. C'est ça le problème. Si tu fais pas, il est plus fort parce que comme on a expliqué, le Yetzirah il te présente des choses concrètes. Donc le Yetzirah, si tu te laisses aller, le Yetzirah, hop, il te prend dans sa direction. Donc t'es là constamment en train de te battre. Tu sais même pas qui tu es parce que des fois tu te retrouves avoir des pensées complètement tordues. Des fois t'as des pensées, des grandes mitzvot. Tu te dis mais qui je suis? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et donc c'est quoi le combat? Maintenant on comprend. C'est quoi le combat? Le combat, c'est que j'ai deux moteurs. On a expliqué maintenant, c'est qu'est-ce que veut chacun? Quels sont les objectifs de chacun? Quels sont les objectifs de la guerre de chacun? Et donc, moi, je suis au milieu, et moi, avec mon libre arbitre, je dois décider à qui je donne raison. Et qui je vais faire gagner. Parce que la seule capacité que Dieu m'a donnée, c'est la capacité de faire gagner un ou l'autre. Je peux faire taire un et faire parler l'autre. Maintenant, tu comprends? Quand t'en as un qui parle, il arrête pas de bégayer, et l'autre, il parle, il te parle bien, c'est intéressant et tout, tu dis bon, tais-toi, vas-y, parle-toi. Comprenez, le Yetzertov, quand il est là en train de bégayer, il dit bon, je vais te proposer un truc, on verra, gagner d'un, etc. Après, il s'arrête, moi, je te propose un truc, now, tout de suite. Ah, pas dans 120 ans, tout de suite. Tu comprends? L'homme, il dit là, il dit, attends, un, il bégaye, l'autre, il parle bien, etc. Je le prends lui. Il est plus beau, il a l'air plus beau, plus attrayant, qu'est-ce que tu veux? La question se pose même pas, c'est évident. Et donc, constamment, toute la vie, tu dois te convaincre, tu dis, non, mais en fait, après 120 ans, on verra, et quand je me rends, il veut pas, il est pas content. Toute la vie, c'est une guerre. Et la seule capacité que Dieu m'a donnée, c'est la capacité de décider, de dire, bon, maintenant toi tu parles, maintenant l'âme divine, elle s'exprime, maintenant l'âme animale, elle s'exprime. Et c'est ça le problème qu'on a ici. Maintenant, la dernière question sur laquelle on s'arrête aujourd'hui, c'est la question que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est, qui a créé l'âme animale? C'est Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'âme animale? Dieu, il crée que du bien, normalement. Dieu ne crée pas le mal. Pourquoi il a créé l'âme animale? Il a créé l'âme animale, comme il dit ici, l'étovat à Adam, pour le bien de l'homme, pour mon bien à moi, shiitgaber alea viinatsrena, pour qu'il se renforce sur elle et qu'il la gagne. Ça veut dire comme ça. Ça, il faut qu'on s'arrête un peu parce que c'est très important ce qu'il dit ici. Pour apprécier quelque chose, il faut avoir travaillé. Quand on a gagné quelque chose sans travailler, on n'apprécie pas. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Adam rotse bekav shelo, yoter mitish akavin shel chavero. Un homme préfère une mesure à lui que 9 mesures à son ami. Pourquoi? On va donner un exemple. Vous savez, une personne, par exemple, qui se lance dans le dessin. Il va faire un dessin. D'accord, une peinture. Bon. Honnêtement, la peinture, elle casse pas des briques. Mais le bonhomme, il est tellement content qu'il a fait une peinture et qu'il a pris, je sais pas combien de mois pour la faire. Il va l'accrocher dans son salon. Et les gens, ils vont dire, ah, t'as vu la peinture? Il attend qu'on demande, qui c'est qui a fait la peinture? Il va dire, ah.
Vous êtes trop tôt.
C'est moi. D'accord, c'est le nouveau Picasso.
Vous êtes trop tôt, tu l'as pas acheté.
D'accord? Maintenant, le bonhomme, il kiffe sa peinture. Pourquoi il kiffe sa peinture? Elle est naze, ta peinture. Achète une photo.
Il y a une histoire d'émotion dedans.
Pourquoi il kiffe sa peinture? Il kiffe sa peinture parce que c'est quelque chose que lui, il a fait. D'ailleurs, une fois, le rabbi avait donné une fois l'exemple suivant. Il avait dit, aujourd'hui, qu'on peut prendre les photos. Il dit, les gens, ils sont là en train de se crever à faire des dessins. À faire des dessins, que le dessin reflète le mieux possible l'image. Mais prends une photo! En une fraction de seconde, t'as la photo. Ah, ça n'a rien à voir. Un dessin, t'as travaillé pour obtenir un résultat. La photo, t'as pas travaillé. T'as cliqué sur un bouton et hop, c'est fini. Ça fait, la photo, elle est prise. Bien sûr qu'il y a un art, la photo, mais bon, il n'y a pas le même travail qu'un dessin. Eh ben oui. Donc, c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, mais c'est ça la même chose. Pour apprécier quelque chose, il faut avoir travaillé. Imaginez un monde, d'accord? Donc, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, un homme préfère une mesure. Une mesure, on parle de récolte. C'est-à-dire une récolte qu'il a plantée, qu'il a semée, qu'il a labourée et que voilà, ça a poussé. Il préfère ça qu'une récolte, d'accord, beaucoup moins cher, qui va pousser, qu'on va lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Le Zohar, quand il parle de ça, il parle aussi du pain de la honte. Le Zohar dit qu'une personne qui prend le pain de la tzedaka ne peut pas apprécier la valeur du pain. C'est une personne qui n'a pas travaillé et qui a reçu les allocations de je sais pas qui, de la CAF, et de je sais pas encore quel truc qui va l'aider, d'accord? Cette personne-là, il peut pas apprécier. Et c'est pour ça qu'il sera toujours en train de se plaindre. Pourquoi il sera toujours en train de se plaindre? Parce que le bonhomme, comme il n'a pas travaillé, donc il peut pas apprécier l'argent qu'il a reçu. Comme il peut pas apprécier l'argent qu'il a reçu, donc du coup, il sera constamment en train de dire oui, mais c'est pas normal, mais hop, procéduré. D'accord? Il s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'il peut pas apprécier. D'un autre côté, une personne qui a travaillé, même s'il a peut-être moins gagné que les autres, il va s'apprendre à apprécier ce qu'on a reçu. C'est ce que le Zohar dit, le pain de la honte. Quand j'ai pas travaillé, c'est du pain de la honte. Tu peux bien manger, mais c'est du pain de la honte. Tu kiffes pas ce que tu manges. Tu sens que tu manges comme un clochard. Alors, il dit le Zohar, on reprend ce que le Zohar dit. Le Zohar, il dit en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Qu'est-ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu? Bien sûr que, évidemment, si Akadosh Baruch Hu avait créé uniquement une âme divine, D'accord? Avec un moteur que l'âme divine. Pac! Et tu avances, piste droite. Tu traces. Il y a, tu traces 120 ans, tu traces, il n'y a rien qui t'arrête. Il n'y a pas de problème. Mais comme vous avez dit plusieurs, où est le mérite? Où est le mérite? C'est quoi le mérite qui est ici? Et c'est pas seulement, c'est pas le mérite. Je kiffe même plus. Et c'est pour ça que pour le tzadikim, c'est même, le tzadik n'aura pas le même kiff que moi. C'est un autre kiff, il n'aura pas le même kiff que nous. Pourquoi il n'a pas le même kiff? Parce que c'est un kiff quand tu sens que tu as surmonté quelque chose. Je vous donne un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. L'enfant qui est là en train d'essayer de marcher. D'accord, il est là, bah, il se casse la figure, là, bah. Après il se lève, il fait un demi-pas, et bah, tout le monde l'applaudit. D'accord? Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 2 ans, il est en train de courir, pourtant on lui dit arrête de courir. Pourquoi on l'a applaudi, ça fait 2 ans? Parce que c'était nouveau. Parce qu'il s'est fatigué. Parce que, naturellement, il tombe par terre, et qu'il a fait un effort pour ne pas tomber par terre. Il s'est battu. Il avait un penchant qui lui disait reste par terre, laisse-toi aller. Et il avait après un bon penchant qui lui dit non, fais des efforts. D'ailleurs, on le voit dans les yeux de l'enfant. On a fait un cours récemment sur ça le Shabbat matin. On le voit dans les yeux de l'enfant. Vous savez, des fois, il essaye de marcher. Et tu le vois dans ses yeux, il essaye comme ça. À un moment, tu vois les yeux, ils s'éteignent. Hop, hop, et il tombe.
Il n'a plus à voir.
Hey, ça lui casse les pieds. Et c'est ça. Ça veut dire pourquoi on kiffe quand on le voit essayer? Parce qu'il essaye. Parce que c'est ça le kiff. On le voit essayer. On le voit surmonter un obstacle. Donc en vérité, quand t'as Kadosh Baruch Hu une main Yetzarara, pourquoi une main Yetzarara Kadosh Baruch Hu? C'est pas pour son bien. Je crois que lui il a besoin de nous. C'est pour notre bien. Pour que grâce qu'on va surmonter le Yetzarara, on apprendra à apprécier le bien. D'accord? C'est comme une personne par exemple, qui il a un père par exemple qui est très très riche, et que son père lui dit je te donnerai pas d'argent, va travailler. Pourquoi? Parce que sinon tu n'apprécieras pas l'argent. Et là quand tu vas apprendre ce que c'est gagner de l'argent de tes propres sous, là tu vas comprendre. Pourquoi? C'est ça le pshat, c'est ça le sens. Ça veut dire qu'en vérité, quand le père il va bloquer son fils, c'est pas pour garder les quelques milliers d'euros qu'il va laisser dans son compte. Il n'a pas besoin de ces milliers d'euros, il a des milliards. Quand le père il va bloquer son fils, c'est pour le bien de son fils. La même chose. Quand Akadosh Baruch Hu nous a créé un Yetzarara, c'est pas Chas V'Shalom pour nous embêter. Akadosh Baruch Hu il a créé un Yetzarara pour notre bien. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité le Yetzarara n'est pas mauvais, il est bon. Attendez. Parce qu'en vérité, c'est quoi son but? Il faut me laisser aller jusqu'au bout. Parce qu'en vérité, c'est quoi son but? Le but du Yetzirah, justement, c'est de me mettre devant un challenge, mais lui, il espère qu'une chose. Il espère que je ne faute pas. Ah bon? Comment on peut expliquer ça? Là, on va finir avec 4 mots, et on va élaborer un petit peu. Kimshal, Azona, chez Bezoar, Akadosh. Le Zohar, il donne un exemple. D'accord? Ce qu'on appelle l'exemple de la femme de mauvaise mœurs. La prostituée. Écoutez cet exemple. Il y avait une fois un roi qui voulait tester son fils, le prince. Et comme un prince en général est très gâté, alors le roi, il veut tester son fils. Il veut savoir est-ce que mon fils, bien qu'il a tout ce qu'il veut, est-ce que justement mon fils va savoir se retenir? Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi a loué les services d'une dame. Il lui a dit, tu vas tout faire pour essayer de faire tomber mon fils, de le faire tomber, de le faire faire des fautes. Et la dame, elle arrive, elle est là, et elle essaye, tac, de l'attirer, de le prendre, de le faire tomber, elle essaye tout. Mais qui c'est qui a payé cette dame? C'est le roi. Et cette dame-là, en vérité, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire plaisir au roi. Et elle sait que qu'est-ce qui ferait plaisir au roi? C'est que le fils ne tombe pas. Donc en vérité, qu'est-ce qu'elle veut? Et en plus, cette femme-là, elle aussi est une femme qui est un sujet du roi. Donc elle aimerait que le roi ait du plaisir. Mais d'un autre côté, le roi lui a donné une mission. Il lui a dit, il faut que tu fasses tomber mon fils. Donc c'est très curieux comme mission qu'elle a. D'un côté, elle aimerait de tout son cœur que le fils ne tombe pas. Mais d'un autre côté, elle est obligée de mettre tout ce qui est dans son possible pour que le fils tombe. Vous voyez le paradoxe? Elle va mettre tout le paquet pour le faire tomber. Mais elle espère qu'il tombe pas. Pourquoi? Parce qu'elle aime le roi. Ben, c'est la même chose. Le Yetzarara est une création d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Zohar. Et donc, si c'est une création d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne crée que du bien. Ah, pourquoi le Yetzarara, on l'appelle le Yetzarara qui est mauvais? Pourquoi on dit Yetzarara qui est mauvais? Très simple. Parce que son rôle, c'est quoi? Son rôle, Dieu lui a dit, toi, ton rôle, pour faire apprécier aux hommes la valeur du bien, il faut d'abord les pousser vers le mal. Et là, ils vont apprécier la valeur du bien. Ils vont apprécier la valeur d'avoir réussi. Seulement, Dieu dit au Yetzarara, tu vas mettre le paquet. Tu vas la jouer méchant, grave. Mais tu vas mettre le paquet. Mais au fond de lui, le Yetzarara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas que la personne faute. Il espère quelque chose et qu'elle tombe pas. Et c'est pour ça, c'est écrit que lorsque ma chère va venir, Akadosh Baruch Hu ne va pas punir le Yetzarara. Au Gan Eden, Dieu punit pas le Yetzarara parce que le Yetzarara, il a fait sa mission. Moi, j'avais une mission de pas faire d'Averot. Mais le Yetzarara, sa mission, c'est quoi? C'est de me faire fauter. Donc s'il m'a fait fauter, Dieu lui dira, bah, bravo, t'as fait ta mission. Pourquoi il va le tuer? Parce que justement, il va lui enlever sa raison d'être. Il lui dit, t'as plus besoin d'être là, mais on va pas le punir. Parce que le Yetzarara n'a pas fauté en me faisant fauter. Il était dans sa mission. C'est exactement comme l'exemple de la prostituée qu'on a donné ici. Qu'elle veut me faire fauter. Non, pardon. Elle aimerait que je faute pas, mais elle va tout faire pour que je faute. C'est ça le Yetzarara. Donc avec ça, on comprend comment finalement, en moi, j'ai 2 moteurs. Mais là, c'est profondément rassurant ce qu'il dit ici. Pourquoi? Parce que si on reprend l'exemple qu'on avait donné le cours de la semaine dernière, on avait dit que c'est comme si qu'il y a deux rois qui sont à l'intérieur et que les deux rois veulent gagner la guerre. Là, chacun des deux rois veut à 100% gagner. Et il y a un bon et un mauvais. Et le mauvais est vraiment mauvais. D'accord? Vraiment, il est mauvais. Il y a un vraiment bon, un vraiment mauvais. Mais là, dans notre exemple, en vérité, il n'y a pas un qui est bon et un qui est vraiment mauvais. Un qui est vraiment bon et qui est... En vérité, les deux sont bons. Seulement un a une allure, une apparence bon, et l'autre a une apparence mauvaise. Donc c'est profondément rassurant. C'est-à-dire, quelque part, quand je vais voir le Yitzhak Hara et je vais lui dire, écoute, en vérité, toi, au fond, tu veux pas que je faute, hein, n'est-ce pas, hein? Eh ben, tu vas voir, je vais fauter, je t'embête.
Il est toujours gagnant,
il est toujours gagnant. C'est pas mal, ça, hein. Tu vas voir ça, tu veux pas que je faute, hein? Ben, je vais fauter, je vais t'embêter.
Tiens, gagnant.
Il a que ça à faire.
Mais c'est ça, le pchat. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on a gagné au change, ce qu'on a gagné ici, c'est qu'en vérité, et le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, le Yetzer Tov veut que je ne faute pas, d'accord? Il le veut extérieurement et intérieurement, il le veut ouvertement. Le Yetzer Hara, intérieurement, il veut pas que je faute, mais extérieurement, il va tout faire pour que je faute. Et malheureusement, il va réussir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Pour me donner le libre arbitre et justement pour que j'apprécie la valeur du travail. D'accord? Donc résumé, je vais faire un petit résumé, après il y a les questions. Résumé ce qu'on a expliqué dans les trois cours qu'on a fait sur le chapitre 9. Résumé, premier cours qu'on a fait sur le chapitre 9, on a expliqué la notion du siège de l'âme divine, siège de l'âme animale. Âme divine, le cerveau, âme animale, le cœur. Donc on a expliqué longuement, c'est quoi le rôle du cerveau, c'est la réflexion, c'est quoi le rôle du cœur, c'est de pomper le sang, donc le sang c'est la chaleur, c'est les pulsions, c'est les bêtises. Ça c'était le premier cours. Deuxième cours, on a expliqué le fait que puisqu'il y a deux sièges, donc il y a une guerre, il y a deux moteurs. Et donc on a expliqué longuement les deux moteurs, le moteur de l'âme divine, le moteur de l'âme animale. Qu'est-ce que veut l'âme divine, qu'est-ce que veut l'âme animale? On a expliqué longuement dans le cours la semaine dernière et le cours de cette semaine. Quelle est la volonté de l'âme divine? Quels sont ses objectifs? Comment elle s'imagine que devrait être un juif religieux? Et donc là, on a donné le prototype d'un, pas tzadik, tzadik gamour. C'est-à-dire tzadik de chez tzadik. Le bonhomme, il a jamais fauté. Le bonhomme, il est là, il se lève, hop, vas-y, Dieu, je suis à ton service. Comme on dira la semaine prochaine, c'est comme Avraham Avinu, on dit qu'il était, on avait donné la semaine dernière l'exemple que tellement il est tzadik que c'est comme un char. Ça veut dire qu'il est complètement annulé à son créateur. Il dit, moi, Dieu, tu tournes le volant, je tourne avec toi. Tu me dis d'aller là-bas, je vais là-bas. Tu me dis là-bas, je vais là-bas. Il a même pas de volonté propre. Donc l'âme divine aimerait qu'on soit entièrement comme ça. Et comme on explique aujourd'hui, elle aimerait que, pas seulement qu'on cherche le divin, mais qu'on ait le plaisir d'avoir trouvé le divin. Et que ce plaisir d'avoir trouvé le divin, automatiquement, m'empêchera de devoir aller chercher d'autres plaisirs dans le mal, puisque de toutes les façons, j'ai ce qu'il faut dans le bien. Ça, c'est ce que veut l'âme divine. L'âme divine voudrait que tous mes centres d'intérêt soient dans le bien. Qu'est-ce que veut l'âme animale? Pile le contraire. Et moi, où je suis entre les deux, ben moi, je suis constamment en train d'essayer de... Moi, je suis l'arbitre. Eh, vas-y, tire d'un côté, tire d'un autre, tire d'un côté, tire d'un autre. Ah, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le mal, ce qu'on vient d'expliquer? Akadosh Baruch Hu a créé le mal pour mon bien à moi, pour me permettre d'apprécier la qualité et la valeur du bien. Maintenant qu'on a défini les objectifs, de toute façon, on reviendra dessus, Bezrat Hashem. Maintenant qu'on a défini les objectifs, qu'est-ce que veut l'âme divine, qu'est-ce que veut l'âme animale? Est-ce que c'est assez clair? D'accord? Ça va, Jackie? Pas trop abstrait? Maintenant qu'on a défini quels sont les buts de chacun, Bezrat Hashem, à partir du cours de la semaine prochaine, je vous donne maintenant le programme pour la suite. Chapitre 10, on va expliquer qu'est-ce que c'est le tzaddik. Le tzaddik, finalement, c'est celui qui a atteint les objectifs. On expliquera qu'il y a deux catégories de tzaddik. Le tzaddik parfait, le tzaddik imparfait. On expliquera ce que c'est. Ça, c'est chapitre 10. Chapitre 11, on expliquera qu'est-ce que le rachat. Le rachat gamour, c'est-à-dire le rachat, d'accord, complet. Le rachat absolu et le rachat, d'accord, imparfait. Chapitre 12, on expliquera ce que c'est le bénoni. Le Benoni, c'est celui qui est entre les deux, qui arrive à jongler. Et nous, notre but, et c'est pour ça que le Tania, on l'appelle le Sefer Shel Benonim, le livre des Benonim, notre but, c'est pas de devenir un tzadikim. Parce que si t'as pas une neshama qui est conçue pour être tzadik, tu pourras jamais devenir tzadik. Notre but, c'est de ne pas être racha et d'être Benoni. De savoir jongler et de savoir être au milieu. Mais avant de comprendre ce que c'est un Benoni, il faut d'abord se comprendre qu'est-ce qu'un tzadik, qu'est-ce qu'un racha, et après on dira, bon, moi je vais être ni l'un ni l'autre, mais au moins je vais être au milieu. Mais là, ce sera beaucoup plus facile parce que maintenant, on a compris les objectifs. Quand on a compris les objectifs, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment jouent les joueurs. Tu comprends? C'est comme tu vas analyser un match. Si tu sais pas c'est quoi les objectifs, je peux pas analyser qu'est-ce que c'est un bon joueur, un mauvais joueur. Quand je sais c'est quoi l'objectif, c'est que le but va rentrer dans les cages. Là, je peux dire, ça c'est un bon joueur, ça c'est un mauvais joueur. Lui, il a très très bien joué, lui il a pas bien joué parce que je sais c'est quoi un bon joueur. Je sais c'est quoi les objectifs. Maintenant qu'on a les objectifs de l'âme divine, de l'âme animale, on va comprendre qu'est-ce que c'est un bon joueur, qu'est-ce que c'est un mauvais joueur. Voilà. Le quoi le? Merci. Le bon juif?
Le non juif.
Non,
il n'a pas de nefesh elokim, donc il n'a pas de...
L'autre joue, mais il a aussi les bonnes pulsions, mauvaises pulsions.
Pas
de l'âme divine, mais il a aussi une sorte de bonne pulsion, mauvaise pulsion. Ça vient dès le départ dans sa création, c'est son cerveau qui lui amène la volonté de faire le bien, la volonté de faire le mal. Il y a le cerveau et le cœur, il a un cerveau et un cœur comme nous. Il y a le cerveau qui le calme et le cœur qui le pousse. Même chose.
Il peut y avoir un des tzadikim de la génération.
Juste deux secondes, je vais pas finir ma question.
Mais nous aussi, on a un cerveau.
Évidemment. Mais ça, le goy aussi, il a un cerveau et il a un cœur. Il a le cerveau qui lui dit ce qui est bien pour moi, d'accord ? Et le cœur qui lui dit ce que je veux.
Qu'est-ce que ça nous apporte en plus pour détacher
le côté divin. La recherche du divin, le plaisir du divin. Et on vit, non, parce que, pas du tout, parce que, non, parce que, avec l'âme divine, on recherche beaucoup plus profond. C'est-à-dire que le goy, il va se satisfaire beaucoup plus tôt. Dès que bon, il a une petite famille, les enfants, moralement tout va bien, d'accord? Il fait pas de bêtises, trompe pas sa femme, etc. Bon, il est bien, il dit bon, ça va, bon, je suis quelqu'un de bien, il y a des bonnes mœurs. Mais le juif, pour être quelqu'un de bien, il va viser beaucoup, beaucoup plus haut. Parce que le juif, il a une âme divine, qui a un moteur qui pousse beaucoup plus loin. C'est une question de moteur. Le ouvre l'air terra. Oui. Alors, juste deux secondes, je termine.